Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 18h19, merci de suivre l'information sur Europe 1 avec notre dossier ce soir sur le monde du sport amateur qui lui aussi souffre du confinement avec des conséquences assez dures, en particulier dans les quartiers. D'où cette tribune de responsables de clubs amateurs, de champions pour que le gouvernement agisse. Et je remercie la ministre des Sports de venir réagir en direct. Bonsoir Roxana Maracineanu.
Bonsoir, Wendy Bouchard.
La crise qui place les petites associations sportives au bord du gouffre, ce n'est pas une surprise pour vous? Est-ce que vous avez pu l'anticiper et serez-vous en mesure de les aider, Madame la Ministre?
Écoutez, ça me donne l'occasion de rappeler les mesures qui ont été annoncées depuis lundi par le Président de la République et à nous, Jean-Michel Blanquer et moi-même, plus 400 millions d'euros pour aider le système à passer.
On vous entend très mal, Roxana.
Sport professionnel.
Oui, 400 millions d'euros attribués cette semaine, annonce que
et
vous avez
faite avec le président. Pas uniquement, oui, et pas uniquement en ce qui concerne le sport de haut niveau, mais bien sûr aussi les associations des territoires. Près de 100 millions d'euros qui seront débloqués pour une aide à la prise de cotisation, à la prise d'adhésion dans un club, avec le passeport que nous travaillons avec le mouvement sportif. 15 millions d'euros spécifiquement dédiés à ces petites associations qui n'ont pas d'employés, donc qui sont gérées exclusivement par des bénévoles et qui ne peuvent pas bénéficier des aides classiques de l'État.
Oui.
Et une mesure qui concerne le secteur du sport, c'est l'allègement des cotisations sur les salaires, ce qui va permettre de garder des emplois dans des clubs pour les associations qui emploient, qui ont des employés, qui peuvent bénéficier du chômage partiel et également lorsqu'ils veulent faire en sorte que ces entraîneurs continuent à travailler, soit à distance, grâce au digital, ou soit parce qu'ils entraînent des sportifs qui sont, eux, encore autorisés à aller dans des équipements sportifs, eh bien, il y a un allègement du coût du travail pour toutes ces associations sportives.
Très bien. Donc, le monde amateur vous intéresse autant que le monde professionnel. Quand ces signataires demandent au moins 50 millions d'euros du plan de relance pour assurer la survie de ces associations, on y est quasiment dans votre calcul, Roxana Maracineanu?
Je veux les assurer parce que les réassurer, on est bien au-delà des 50 millions, des emplois aussi supplémentaires dans le plan de relance qui vont bénéficier à ces associations qui s'occupent de nos jeunes, de notre jeunesse dans les territoires, et pas seulement pour faire de la compétition, mais du sport, pour intégrer les jeunes dans la société, du sport aussi avec une utilité sociale. Et les signataires de cette tribune, je sais qu'ils sont convaincus par ça. Mmh. Et moi aussi, en tant que ministre, moi je suis la seule ministre à les avoir considérés au niveau national en débloquant du fonds de manière pérenne au ministère, mais aussi dans les autres ministères qui leur sont destinés. Et on continuera bien sûr à les aider. Et surtout à ce cap-là pendant cette crise sanitaire.
L'aspect social, on va donner la parole à un des signataires qui le connaît pour le coup, cet accomplissement sur le terrain. Daoud Asso est vice-champion olympique de boxe à Pékin, double champion de France. Et vous avez fondé l'association Action Boxe dans le nord de la France. Bonsoir Daouda.
Bonsoir tout le monde, merci de m'accueillir.
Eh bien merci.
J'ai écouté passionnément Madame la Ministre. Avec un discours qui va aujourd'hui dans le sens de nos demandes, en espérant aujourd'hui que ce ne soit pas juste un discours et qu'il y a vraiment des faits qui vont suivre, parce qu'aujourd'hui on se rend compte vraiment que j'ai fait partie du sport de haut niveau, mais je suis parti à la base du milieu associatif,
oui,
qui est pour moi, selon moi, indispensable. Aujourd'hui, je suis fondateur et responsable d'une structure qui s'appelle Action Box, qui a trois axes, un axe purement sportif, un axe éducatif et un axe social. Et si on ne prend pas en considération cette base, on s'enfonce droit dans le mur. Je le dis fortement parce que je pense que la perception des décideurs et des gens de terrain, et c'est deux mondes complètement différents. Et parfois, je me dis, quand j'ai écouté les dernières informations concernant les moyens qu'ils allaient être alloués, et ben personnellement, même si je fais partie du sport de haut niveau, aujourd'hui, je me suis senti un peu délaissé. Aujourd'hui, une situation très critique où ben malheureusement, on n'a pas d'adhésion, on peut pas s'occuper de notre public, on a vraiment du mal. Il faudrait vraiment, vraiment, vraiment que le gouvernement effectivement fasse une rectification de certains dires qu'il y a eu. Mais nous voulons plutôt du concret.
Alors,
j'insiste, du concret et du concret.
On va faire réagir la ministre dans un instant au concret que vous demandez. Mais puisque vous parlez de votre public, Daoud Asso, justement, ces jeunes adhérents, ces jeunes participants, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Est-ce que vous arrivez à garder le lien entre vous, même si ce n'est pas sur le terrain? Est-ce que vous arrivez à avoir de leurs nouvelles et à savoir comment ils vont?
Ben, aujourd'hui, il y a le digital, donc je vous cache pas, c'est un long combat, c'est un long combat. Après, on essaie de via Zoom, via les réseaux sociaux, de maintenir du lien, mais malheureusement, c'est un public, comme on dit, en difficulté, qui n'a pas forcément toujours la possibilité d'avoir des liens de connexion, des outils permettant de garder ce lien. Et donc, c'est vrai que c'est là, la situation est très compliquée. Là, j'ai eu la chance, jeudi, par rapport au centre social, d'avoir accès à une salle où j'ai pu les retrouver sur un groupe de 6 jeunes. Et ben voilà, et mais ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs. Aujourd'hui, on les met dans une situation qu'ils n'ont pas demandé. Et à un moment donné, il faut vraiment, réellement qu'on se réveille. Parce qu'en fait, même là, pendant le premier confinement, il y a eu ce qu'on appelle les violences urbaines, où moi, j'étais sur le terrain pendant la nuit pour essayer de calmer cette jeunesse qui est complètement, qui se sentent aussi délaissés. Autant les structures délaissées, mais les jeunes se sentent délaissés. Moi, je suis au quotidien avec eux. Mmh. Je vous promets, je suis au quotidien. Et il faut vraiment... vivre certaines choses pour les comprendre. La perception, même en vous parlant, je vous invite à venir sur le terrain, pas sur un one shot, mais sur une période, et vous allez comprendre les difficultés que nous rencontrons et
on
les
imagine.
Combats que nous menons en permanence. Et je le dis avec insistance, parce que je me bats dans des réunions
avec insistance et passion, hein, Daoud Asso. J'aurais qu'on fasse réagir Roxana Maressané à nous,
passion,
hein, parce que vous dites agir sur trois niveaux: sportif, éducatif, social. C'est ce que demandent aussi les signataires de cette tribune, un Grenelle de l'inclusion par le sport. J'imagine que c'est tout ce que vous aimez dans le sport aussi qui vous a fait quelque part devenir à la fois grande sportive mais aussi citoyenne, Roxana Maressané à nous.
Oui, vous savez, Daouda, et je voudrais m'adresser à tout le monde associatif à travers vous. Moi, je viens du terrain, j'étais sportive de haut niveau, j'étais responsable associative jusqu'à 2 ans, hein, jusqu'avant de devenir ministre. J'étais au bord des bassins dans une association sportive ici dans la région parisienne, donc je sais tout à fait de quoi on parle. Et c'est bien pour ça que je me bats, pour que les sportifs de haut niveau puissent continuer à être autorisés à s'entraîner, à faire leur métier, pour que les mineurs puissent continuer à pratiquer du sport, parce que je sais que c'est une activité minimale pour les associations, 50% de leur activité, voire plus pour certaines d'entre elles, qui va pouvoir être maintenue avec des cotisations qui vont pouvoir rester dans la trésorerie des associations, et puis un lien qu'il faut préserver entre les familles et l'association sportive. Donc, on va pour que les mineurs puissent reprendre le plus tôt possible, on espère en décembre. Et bien sûr, toutes ces mesures de soutien, aujourd'hui, elles existent. Ce n'est pas du vent, c'est même pas un grenelle. Parce que vous savez, quand on discute dans des assises générales, enfin, des assises ou des grandes réunions, c'est bien, mais ce n'est pas de l'action. Nous, on a débloqué des fonds, on a de l'argent pour venir en soutien de vos actions, parce que c'est vos actions à vous qui vont être importantes. Et il faut que les gens qui vous font signer des tribunes, eh bien, ils fassent leur travail, qu'ils viennent au ministère du Sport pour qu'on leur explique comment cet argent va être distribué. Il faut qu'on se réunisse en visio, puisque maintenant tout est possible, on peut même être en lien direct avec vous sur le territoire, et qu'on vous explique comment aller chercher ces fonds. Parce qu'encore une fois, le gouvernement, il fait tout pour aider, il fait tout pour mettre beaucoup... aujourd'hui, moyens à disposition des associations, des entreprises pour passer la crise. Mais si ça, c'est pas connu aujourd'hui par les gens qui en ont besoin, eh bien, ce sera évidemment pas suffisant et on aura l'impression qu'on fait pas. Mais en fait, on a besoin de relais, on a besoin que les collectivités se mobilisent pour faire passer le message à leurs associations. Et puis, que les têtes de réseau, les grandes associations, que ce soit les fédérations ou l'association, l'agence d'éducation par le sport, qui a publié cette tribune en faisant signer des associations adhérentes de territoire, eh bien qu'ils viennent, qu'ils participent à ce travail de passage d'information pour que les acteurs sur les territoires sachent véritablement ce qu'on fait et qu'ils puissent actionner les aides dont ils ont besoin, j'en suis certaine, je le sais.
Daoud Asso peut vous répondre, Roxana Maressané, à nous, hein, sur cette action de terrain et cette nécessité de mobiliser à la fois eh bien, le sport professionnel et le sport amateur.
Bon, ouais, mais ironiquement, excusez-moi, j'ai un peu le sourire. Ces dernières années, il y avait le plan Borloo, justement, qui a été recalé par le président de la République. Mmh. Et la question est, pourquoi avons-nous, si maintenant le milieu associatif est tellement important, pourquoi le gouvernement actuel ne donne pas suite à ce plan qui me semble indispensable, que ce soit l'avant-Covid, pendant Covid, post-Covid sur des actions comme celle-ci.
Oksana,
ça veut dire qu'aujourd'hui,
oui. Pour répondre à Daouda. So.
Le plan Brolo, monsieur, il est tout à fait mis en œuvre aujourd'hui. Et si vous le prenez action par action, quasiment l'intégralité de ce plan est aujourd'hui mis en œuvre. Les associations sportives, elles ont un véritable rôle à jouer dans le dispositif des cités éducatives qui existe aujourd'hui dans les QPV, qui sont financées fortement par l'État. Et puis nous-mêmes, à un niveau d'État, de ministère des Sports, comme je l'avais dit tout à l'heure, je suis la première ministre à avoir donné fonds financiers aux associations qui interviennent dans les QPV. Habituellement, c'est les maires qui les finançaient.
Très bien.
Nous avons débloqué 40 millions d'euros dans les plans fédéraux pour ces associations-là. 1800 emplois aujourd'hui qui sont financés par l'Agence nationale du sport pour ces associations des quartiers.
Oui.
Et puis, un plan, un appel à projet pour rentrer en lien avec vous aussi et vous connaître mieux, qui a été l'année dernière 3,5 millions. Et puis cette année qui est reconduit avec le soutien du COJO parce que le comité d'organisation des Jeux Olympiques aussi veut aider sur cet aspect social du sport et qui est venu abonder. Donc venez regarder sur le site de l'Agence nationale du sport et vous verrez qu'aucune association n'est oubliée et surtout pas celle qui œuvre dans les quartiers difficiles.
Merci. Roxana Marissaneanu, ministre des Sports, en réponse directe à cette tribune et signataire sur les actions de terrain. Daouda Sow, merci d'avoir été avec nous, fondateur de l'association Action Box et bravo pour le lien social que vous créez au quotidien avec tous les jeunes et votre public. Merci.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
18h32, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus, c'est l'essentiel de l'info. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Premier cas de Covid-19 détecté dans un élevage de visons en France. Le foyer se situe en Eure-et-Loir. L'abattage des 1000 bêtes a été ordonné pour éviter une possible mutation du virus et une recontamination sur l'homme. Noël, commerce, déplacement, les annonces d'Emmanuel Macron très attendues. Mardi soir, le président en dira plus sur l'allègement des restrictions actuelles. Selon le porte-parole du gouvernement, l'assouplissement devrait se faire en trois étapes, autour du 1er décembre, avant les congés de fin d'année et puis à partir de janvier. Sur le front du vaccin, les dirigeants du G20 s'engagent à répondre aux besoins de financement pour sa distribution de façon équitable dans le monde et notamment pour soutenir les pays pauvres. Les États-Unis, de leur côté, prévoient de commencer la campagne avant la mi-décembre. Aux États-Unis, où par ailleurs les Américains devraient très bientôt connaître les noms des membres du prochain gouvernement de Joe Biden, le président élu annoncera quelques noms dès mardi. Les élections au Burkina Faso, sous la menace djihadiste, les bureaux de vote ont dû fermer dans l'après-midi. Les Burkinabés devaient élire leur président et leurs députés. Les atteintes graves à l'environnement pourront désormais être sanctionnées. Un délit d'écocide va être créé. La proposition avait été formulée lors de la Convention citoyenne pour le climat.
Merci, à tout à l'heure, 19h pour l'info. Sophie Tussaud, le ciel de nos régions. On fait un petit point, Valérie Darmon.
Eh bien, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Alsace, bassin parisien, Champagne, Ardennes, les nuages dominent et s'accompagnent d'un peu de crachin sur le nord Picardie. Pays de la Loire, Bourgogne, Franche-Comté, le ciel reste voilé et même par endroits très nuageux. Les gelées sont moins nombreuses que ce week-end. Dès la mi-journée, le soleil revient très facilement sur les deux tiers sud, jusqu'en Aquitaine et jusqu'en Méditerranée. Les maximales affichent 12 à 16 degrés, un petit peu moins sous les nuages récalcitrants de la vallée de la Garonne. En Corse, il fera très doux avec des pointes à 18. Ce sera la maximale des maximales en ce lundi.
Merci Valérie.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix en débat chaque samedi, chaque dimanche, 18h30, 19h. Elles nous accompagnent ce soir, ces grandes voix. Laetitia Krupa, journaliste politique. Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique, président de MCBG Conseil. Et François Claus, grand reporter, rédacteur en chef à Europe 1. Madame, messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Wendy.
Bonsoir.
Ah voilà, les troisièmes est là. À la une, Emmanuel Macron veut sortir de la morosité ambiante. Il veut mettre fin à l'incertitude qui taraude les Français. Avec cet assouplissement qu'on commence à connaître un peu plus dans le détail, assouplissement en trois étapes pour sauver peut-être un esprit de Noël, on va y revenir, avec en tout cas un désastre toujours visible à l'hôpital, car le problème reste entier. Un président qui remonte tout de même sa cote de popularité. Comment analysez-vous justement ces derniers sondages? En attendant, les appels à la responsabilité sociale se multiplient. Hier, les restaurateurs sur Europe 1, avant-hier, la culture et aujourd'hui, le monde du sport. On en parlait il y a un instant et vous pourrez réagir également. Mais je voudrais vous entendre d'abord sur vos choix personnels, vos coups de gueule et vos coups de cœur.
Wendy Bouchard, les grandes voix.
Laetitia Krupa, coup de cœur, coup de gueule pour commencer ce tour de table.
Un coup de cœur, parce que j'ai envie de finir la semaine en beauté, un coup de cœur pour les 20 000 Français qui sont descendus dans la rue hier pour défendre la liberté de la presse, pour défendre le droit d'informer des journalistes, le droit des journalistes de filmer les policiers. Je ne sais pas si vous avez entendu Wendy, mais enfin, c'était quand même dans toutes les bouches quasiment des manifestants, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression de cet article 24 de la loi sur la sécurité globale aller interdire ou en tout cas contraindre les journalistes dans cet exercice-là.
Et vous avez dit, bon, on aime les journalistes en France.
Eh bien, on s'est dit, oui, les gens finalement aiment d'informer. Les journalistes. On n'arrête pas de nous dire qu'il y a de la défiance, que nous sommes au plus bas dans tous les baromètres de confiance. Non, 20 000 manifestants, ce n'est pas la France entière, mais enfin, c'est quand même pas mal. Je rappelle juste qu'il a toujours été possible de filmer les policiers. Ce qui est interdit, c'est de diffuser avec un objectif malveillant l'identité d'un porteur de force de l'ordre. Donc, je me dis, le ciel s'éclaircit. On voit même un peu de soleil parce que Gérald Darmanin, demain, reçoit les représentants des journalistes et Christophe Castaner déclare carrément son amour à la profession. Oui. Alors, je me dis, amis journalistes, vous pouvez souffler, restez vigilants. Évidemment, quand il s'agit de défendre le droit d'informer et la liberté de la presse, mais vous pouvez souffler.
Bon, donc vous êtes positive. Allez dans le détail peut-être sur la déclaration d'amour de Christophe Castaner. Est-ce le rôle d'un ancien ministre de l'Intérieur d'ailleurs de prendre ainsi les... avec littérature et prose,
c'est quand on a la totalité des titres de presse contre soi, hein, parce que c'est la totalité des titres de presse qui ont déclaré leur hostilité à la mesure.
Oui.
Il faut faire ce qu'on appelle du déminage. Oui. Et Christophe Castaner, avant d'être Premier ministre, était d'ailleurs un très bon porte-parole du gouvernement. C'est sans doute le rôle qu'il a le mieux joué. Donc il a une relation avec la presse un peu particulière, un peu plus proche, disons, qu'un autre ministre ou ancien ministre. Donc c'est probablement pour ça. Il faut sortir les avirons parce que Darmanin a déclenché une crise majeure avec la presse à lui tout seul. Donc il va falloir déminer. Hein. C'est compliqué.
Et donc, juste le garde des Sceaux a rappelé aujourd'hui à la télévision que les journalistes ne seront pas concernés par la mesure de comparution immédiate qui visera justement les individus haineux sur les réseaux sociaux qui le font de façon malveillante. Les journalistes, je répète, ne seront pas concernés par la mesure de comparution. C'est important de répéter parce qu'il y a eu une telle levée de boucliers qu'on perdait quand même un peu le détail des risques et des contraintes.
Ce qui a redouté malgré tout dans cette affaire, même si le texte a permis d'encadrer un peu cette sacro-sainte liberté, c'est que les comportements changent maintenant avec ce débat-là. Et de ce point de vue-là, Darmanin a gagné. Des comportements, les comportements de la police vis-à-vis des journalistes, dans certains cas.
On a vu une belle image, cela dit. Hein. Les gendarmes ont levé leur casque, justement, hier, devant les manifestants, preuve de leur pacifisme, évidemment, et peut-être même de leur neutralité dans ce dossier.
Très beau, effectivement. Hein.
François Claus, tenez, vous aviez un coup de cœur, vous aussi, à nous livrer ce soir.
Un coup de cœur aussi, comme Laetitia, pour la fin de semaine. Un coup de cœur pour une marque pas chère, mais qui est très chère au cœur des Français. Décathlon, propriété, vous savez, de cette tentaculaire famille roubaisienne Muliez, qui possède entre autres Auchan. Non, Décathlon a effectivement confirmé vendredi soir avoir tout simplement retiré tous ses budgets de pub qui étaient alloués avant Noël, et ils sont conséquents à la chaîne de télévision CNews. L'information, en fait, a été dévoilée par le collectif de citoyens qui s'appelle Sleeping Giants, les géants endormis en français. Ce sont des citoyens qui luttent contre le financement des discours de haine, et selon Sleeping Giants, eh bien, Décathlon, qui n'a pas confirmé, qui a été très sobre dans son communiqué, ne supportait plus le discours délétère de la chaîne qui appartient à M. Bolloré, notamment celui d'Éric Zemmour tous les soirs, sous le coup, rappelons-le, d'une enquête ouverte par le parquet de Paris pour provocation à la haine raciale et injure publique à caractère raciste. Alors oui, je souhaitais ce soir saluer cette attitude de Décathlon, qui l'avait également eu à propos du magazine à l'époque Valeurs Actuelles, une manière de se créer une image, bien sûr, je ne suis pas dupe, mais en même temps, on dénonce si souvent le monde de l'entreprise, celui du profit, son manque d'engagement dans la construction d'un autre monde, pour saluer cette belle initiative. Et ce soir, j'ai envie de vous dire, à fond la forme, oui, mais on n'oublie jamais le fond.
Ah, donc elle n'était pas contente, Nadine Morano. Hein. Vous n'avez pas honte, Décathlon a-t-elle tweeté, entreprise partisane et sectaire, c'est ça vos valeurs, elles sont en contradiction avec celles du sport et avec les miennes. Je regarde CNews, mais je quitte Décathlon. Voilà comment cela traite.
Nadine Morano et Nicolas Bay sont les deux qui ont réagi.
Oui.
Non, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. L'entreprise est libre de choisir où elle met la pub et de choisir l'image de marque. Une entreprise, c'est de l'image avant tout. Philippe, vous êtes le spécialiste, donc c'est vous qui allez nous les éclairer. Mmh. Mais enfin, évidemment que c'est un énorme coup de pub génial, il me semble, pour Decathlon. Parce que le message envoyé, à mon avis, est positif. Mais bon, c'est Philippe le spécialiste.
Nadine Morano n'ira plus chez eux, elle ne sera peut-être pas la seule, mais non, ils s'en tireront positivement, Philippe Rochevoy.
Après, aux États-Unis, par exemple, où c'est un grand jeu de prendre des positions de ce type, il y a eu un grand mouvement anti-mariage gay, par exemple, qui était très trumpien de la part de marques vraiment très conservatrices. Chacun a son public, j'ai envie de dire. Ça dépend de la cible, hein, finalement, de Decathlon. Et probablement, Decathlon a fait le choix plutôt de gens jeunes, urbains, qui ne sont pas vraiment dans la ligne de CNews, pour dire les choses, ou de Éric Zemmour, pour dire les choses franchement.
En tout cas, c'est
ce choix-là aussi. Et ça constitue effectivement l'entrée des marques en politique. C'est un phénomène majeur et très intéressant. On voit que Facebook a les mêmes types de problématiques. Mmh. Toutes les marques, finalement, doivent se déterminer aujourd'hui. Moi, je vais vous parler d'une autre marque. J'ai un coup de cœur aussi pour une marque. On ne s'est pas concerté avec François.
Avec des
galons. Est-ce que vous connaissez la définition de YOLO, Wendy?
Non.
YOLO, c'est you only live once. On ne vit qu'une fois. C'est un mouvement sur Internet où finalement on se dit on n'a qu'une vie, donc on va en profiter, on va avoir des moments où on fait un peu n'importe quoi.
D'accord.
Voilà. Et je suis sûr que vous avez des moments comme ça, Wendy, je suis sûr aussi que Laetitia a des moments YOLO.
Pas
spécifiquement souvent.
François
entre deux éditoriaux sur le Haut-Karabakh, je suis sûr que vous avez des petits moments YOLO comme ça. La communication est en train de devenir YOLO, c'est-à-dire qu'on sent bien que le gouvernement sur le Covid fait un petit peu n'importe quoi en termes de communication, et c'est très contagieux puisque Monoprix s'y met. Alors Monoprix a mis dans ses rayons, et c'est une campagne nationale, hein, des enseignes, enfin des affiches, où il est écrit, je vais vous en lire une ou deux, « Les vêtements pour enfants jusqu'à 3 ans sont à nouveau essentiels. On peut vous les vendre, les autres sont priés d'arrêter de grandir. Une commission venant de conclure que l'eau s'amouille, nous avons finalement le droit de vous vendre des parapluies. Votre équipe Monoprix. Hein. Suite aux mesures gouvernementales, certains rayons ont été transférés directement chez vous. Ça, c'est monoprix.fr, petit côté digital. Si les biberons, ça c'est ma préférée, si les biberons n'étaient pas nécessaires, il fallait nous le dire et on n'aurait pas fait de bébé pendant le premier confinement. Ça c'est votre équipe Monoprix.
Ça c'est génial. Ils vont loin.
Ça a été repris partout. Alors il y a un communicant qui l'a analysé de manière très astucieuse, c'est Raphaël Liorca sur Twitter et qui dit, vous voyez, ça c'est la différence entre le premier et le deuxième confinement. Premier confinement, c'était le temps de l'héroïsme. On applaudissait, souvenez-vous Wendy, les soignants à 20h. Et la grande distribution disait à ses personnels, vous êtes les héros des Français, vous assurez leur nourriture.
Vous êtes sur le front
vous aussi. Ce qui est vrai parce que beaucoup par ailleurs sont tombés malades et certains sont morts. Donc c'était une réalité. Mais là, on est passé dans autre chose. Au fait, la grande distribution, elle reflète bien l'état d'esprit et l'âme des Français. Et en ce moment, ils sont très énervés. Et ils ont très envie de se rebeller et ils ne croient plus aux mesures gouvernementales.
Oui, mais c'est un aspect psychologique qu'on va un peu creuser ce soir. Laetitia, vous vouliez réagir à ça.
Et en plus, c'est en termes de timing excellent, puisque normalement, notre président devrait nous annoncer, si tout se passe bien, vu que c'est dans la presse partout, que les magasins rouvrent le week-end prochain. Donc vous voyez, c'est le timing est très bon, c'est-à-dire que...
Je ne suis pas sûr qu'il va aller à Monoprix faire ses courses, Manu.
On verra bien, mais enfin en tout cas, pour ce genre de communication, je trouve que voilà, c'est parfaitement forme et fond, comme vous disiez François, on y est.
Merci Philippe Moreau-Chevrolet, Laetitia Krupa, François Claus, voilà pour ces coups de cœur partagés ce soir. Petite pause et on va entrer dans le débat avec ce qu'il devrait annoncer Emmanuel Macron. Cette stratégie que vous avez commencé déjà de nous analyser, Laetitia Krupa, stratégie des petits pas, on sait quasiment déjà ce que le président va dire. Bon, bah, c'est nouveau, mais ça peut nous rassurer. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix en débat sur Europe 1. Laetitia Krupa est avec nous ce soir, journaliste politique. Philippe Moreau-Chevrolet qui vient de nous analyser la sacrée campagne de Monoprix, spécialiste en communication politique et président de MCBG Conseil. Et avec nous également François Claus, grand reporter, rédacteur en chef à Europe 1 et grande voix de la maison. Vous le connaissez. Alors j'aimerais qu'on parle psychologie un petit peu, chers amis, parce que on entend beaucoup parler de morosité, cette inquiétude, cette irritabilité des Français. Voilà le vocable qu'on utilise vraiment au gouvernement. Pour preuve de la prise de conscience justement que les Français ne vont pas bien, ça a commencé mardi très clairement avec Jérôme Salomon qui parle de cette inquiétude, de cette santé mentale de nos compatriotes. Écoutez.
Santé publique France révèle aujourd'hui que la santé mentale des Français s'est de nouveau dégradée entre fin septembre et début novembre. La crise sanitaire du Covid-19 a révélé la vulnérabilité psychique de nombreux Français. On observe ainsi une augmentation importante des états dépressifs.
Voilà, on y est. Il va falloir s'attaquer à cette santé mentale, François Claus. Discours important qui change un petit peu de donne. Hein.
Oui, c'est une marge de manœuvre étroite. Hein. Il y a ce besoin de retour à la vie qu'on a tous au fond de nous. Il y a le besoin impérieux de sauver ce qu'on peut encore sauver sur le plan économique. Et il y a le besoin encore plus impérieux de tenir compte de la réalité sanitaire. Avec ces trois arguments-là, il faut tenir un discours à la nation qui soit un discours de responsabilité des citoyens. Or, Emmanuel Macron, le jeune technocrate Emmanuel Macron, qui devrait être un père de la nation rassurant, qui devrait avoir en lui un zeste de Chirac, une dose de Mitterrand, il est loin de les avoir. Et le discours qu'il va tenir là, entre la nécessité de maintenir des règles indispensables pour sauver ce qui peut être sauvé en termes d'urgence à l'hôpital et en même temps le retour à la vie que Noël implique, va être très difficile. D'autant plus que le risque qu'on revive le retour à la vie qu'on a évoqué à la fin de l'été et qui a été si capital dans le développement de la deuxième vague de l'épidémie, ça va être compliqué avec Noël. Certes, ce n'est plus l'été, mais c'est l'hiver. C'est le moment où on se regroupe tous. Noël, c'est effectivement une église bondée pour la messe de minuit. C'est se retrouver tous en famille, nombreux, autour du sapin et du repas. Même le beau-frère qu'on ne veut jamais voir dans l'année, on le voit une fois par an à Noël en famille. Donc il va falloir dire aux gens de faire attention tout en leur disant... Il faut fêter Noël. Pour tout vous dire, je suis un peu inquiet de la possibilité qu'il aura de nous responsabiliser, de trouver les mots qu'il faut. C'est tout son défi.
Oui, avec cet assouplissement en trois étapes hein, que commence encore à définir Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, dans le journal du dimanche, que vous avez lu attentivement.
Oui, moi ce qui est génial, c'est qu'en lisant la presse et en écoutant les ministres, parce qu'il y a deux façons de faire fuiter, hein. C'est depuis que Jean Castex est arrivé à Matignon, c'est la même stratégie de communication, c'est-à-dire qu'avant les annonces officielles, on laisse fuiter les annonces qui vont être faites, c'est-à-dire les mesures, le durcissement ou plutôt l'assouplissement, la tendance, certaines mesures même de façon très précise, soit dans la presse, soit dans la bouche des ministres. Mais alors là, c'est génial parce qu'on a deux en un dans le JDD aujourd'hui. Gabriel Attal, qui est souvent celui qui distille comme ça les informations avant le Premier ministre ou là, dans le cas qui nous occupe, avant le président. Là, on a tout. Voilà, on a tout. Donc, on a, comme on a dit, les commerces vont rouvrir. Le Black Friday, le Black Friday le 4 décembre. Les cultes aussi, avec des mesures sanitaires strictes. Mais enfin, on devrait pouvoir être dans une église, normalement, à peu près à 30 personnes. Les sports, vous aviez là, justement, à l'instant,
sports,
Wendy.
Qui nous disait, a priori, autour du 1er décembre pour les enfants.
Autour du 1er décembre. Mmh. Et puis, on a même la philosophie. Vous savez, on a toujours dit... C'est un peu le mot fourre-tout, mais la doctrine du gouvernement. Et alors, ce n'est plus le vivre avec le virus, mais c'est le mieux vivre avec le virus dans les prochaines années. Et voilà, et cette petite formule va être en toile de fond, je vous le donne en mille, on se verra le week-end prochain, de l'intervention d'Emmanuel Macron, qui, je vous écoute attentivement François, a quand même un talon d'Achille depuis son arrivée à l'Élysée, c'est la proximité et l'empathie. Et là, cette fois-ci, il n'a pas d'empathie.
C'est sa difficulté, ouais.
Et 9 mois après le « Nous sommes en guerre » qui a tant effrayé, hein, et à juste titre au départ, les citoyens que nous sommes, il va falloir justement rassurer et essayer de sortir de notre torpeur, voire de ces dépressions hein, très très lourdes parfois, bien un certain nombre de nos concitoyens. Philippe,
oui, il y a quand même un citoyen français sur 5 qui est dépressif en ce moment, enfin qui explique qu'il est dépressif. Donc c'est une partie importante de la population. Mmh. Ça fait une personne sur 5 que vous croisez, enfin que vous ne croisez plus, dans la rue qui va pas bien. Donc évidemment, le chef de l'État doit en tenir compte, il doit faire preuve d'empathie, mais nous, enfin, je pense que ce que collectivement, ce qui permettrait peut-être de sortir de tout ça, c'est qu'il soit clair, en fait. C'est que c'est vraiment clair, la clarté. Il y a un sujet sur lequel il pourrait axer son intervention, je suis bien persuadé qu'il le fera pas, mais rêvons un peu, c'est la vaccination. Peut-être nous dire simplement, est-ce que l'Allemagne, est-ce que l'Italie sont tout seuls à se préparer avec des vaccinodromes, avec une communication extrêmement claire sur quelles catégories de la population vont être vaccinées, avec tout un processus qui, au fond, est déjà communiqué, en cours, en train. Est-ce que c'est la même chose en France? Probablement oui, on n'imagine pas qu'on reste passif là-dessus, mais je pense qu'il faudrait le dire, parce qu'on a un historique un peu compliqué avec la communication de l'action du gouvernement dans cette crise. Donc il faudrait peut-être projeter les gens vers plus d'optimisme. On a un vaccin, ou plusieurs vaccins, et la crainte des Français, majoritairement, c'est que ce soit tué par des arcanes administratives incroyables, qu'il y ait des obstacles à n'en plus finir, qu'on mette 20 ans à mettre des validations. Vous voyez bien ce que je veux dire. Toute cette technocratie qui, elle, est vraiment effrayante et au nom de laquelle on vous demande une attestation de transport que plus personne ne comprend et qui n'a aucun sens. Elle est unique au monde, hein, par ailleurs. Et tout ça ne nous rend pas des meilleurs élèves puisqu'il y a un classement de The Economist qui vient de sortir, des pays qui respectent le mieux les règles de l'OMS et de la communauté scientifique. Mmh. Et on est en 18e position, très très loin devant l'Allemagne qui doit être 5-6. La Nouvelle-Zélande étant le numéro 1, comme quoi il n'y a pas que parce que c'est une île qu'elle gère bien l'épidémie, c'est aussi parce qu'elle respecte à la lettre les consignes des scientifiques. Donc peut-être qu'il y a du grain à moudre pour l'intervention de mercredi.
Oh oui.
Mais être après, il y a deux choses. Philippe, il y a deux choses. Il y a à la fois l'attitude de Macron, l'attitude du pouvoir, et puis l'attitude des Français eux-mêmes, qui sont parmi les plus rétifs dans le monde, on le sait aujourd'hui,
à la vaccination.
Il y a aussi cette donnée qu'il doit, prendre en compte. C'est-à-dire il n'est pas le seul avec le gouvernement à inciter. C'est aussi ce que nous sommes, nous, profondément français, dans ce désir totalement égalitaire que nous avons et totalement rebelle d'un autre côté, qu'il va falloir domestiquer. Et oui, c'est pas simple.
On fera le compte d'ailleurs sur la vaccination contre la grippe, la grippe saisonnière. Parce que
une vaccination, ça peut se rendre obligatoire. Rappelons qu'il y a des vaccins obligatoires dans ce pays.
Certes,
pas... pourquoi pas.
Laetitia Krupa.
Mais vous avez tout à fait raison, François, parce qu'il y a quand même un problème dans toute cette stratégie mise en place pour essayer de vaincre ce virus, c'est l'isolement. Alors là, il y a une grande discussion qui est en train de se faire dans la majorité, qui est portée par le groupe Agir, mais que Gabriel Attal aborde dans son interview au Journal du Dimanche. Il dit qu'à titre personnel, il ne serait pas contre des amendes pour la personne testée positive ou cas contact qui ne respecte pas l'isolement. Mmh. Et ça, il me semble qu'avant d'aborder le déconfinement, c'est une question qui est cruciale. Mais sans forcément entrer avec le biais autoritaire, coercitif. Il y a un médecin aussi qui, dans interviewé également aujourd'hui, qui explique qu'il peut y avoir tout un arsenal de mesures d'accompagnement pour la personne qui serait positive ou cas contact, d'information évidemment, mais d'aide pour la vie quotidienne, pour les courses, pour tout ce dont elle a besoin, et aussi pour le télétravail, Wendy. Non mais rendez-vous compte, mardi sera une négociation finale, il me semble, entre syndicats et demain, réunion finale dans les négociations entre syndicats et patronat sur le télétravail. Mais on télétravaille depuis 8 mois. C'est-à-dire que les syndicats et le patronat continuent de télétravailler. Oui. Donc évidemment que pour les personnes positives isolées, il faut que ce soit tout de suite urgent. Il faut qu'on sache comment télétravailler, comment se faire aider, comment rester chez soi quand on est seul ou pas. Une semaine sans sortir.
Alors l'isolement, les modalités pratiques, les éventuelles sanctions à la clé, mais on peut, à mon avis, gager que le discours d'Emmanuel Macron sera aussi très psychologique. Et je reviens au préambule de notre discussion sur Jérôme Salomon et sur notre santé mentale. Car qui dit morosité dit épargne forcée quand on a quand même un petit peu de sous et quand on peut au moins manger deux fois par jour. Mais il faut redonner la confiance, il faut redonner envie aux Français de consommer. Ça aussi, c'est l'économie, ça aussi, c'est la politique, Philippe Mongeau.
Oui, c'est la politique. Alors, ce qu'il faut arriver à faire quand je parle de clarté, c'est aussi que les Français croient que si on fait les choses bien, on ne sera pas reconfinés. Donc c'est le problème, c'est de sortir du stop and go, parce que là on pensait que la première fois serait unique, du coup on y est allé à fond et beaucoup de gens ont écrit des récits bucoliques sur leur confinement en ne se rendant pas compte de la réalité, mais ils ont pu se protéger. Là on ne peut plus se protéger parce qu'on a le sentiment que ça peut recommencer éternellement, donc il n'y a plus ce petit confort de se dire je fais cet effort une fois, pas deux, pas trois, pas quatre. En fait on n'en sait rien. Donc l'enjeu aussi pour Macron, c'est de dire maintenant j'ai compris ce que c'était que cette crise. On a eu, disons, une courbe d'apprentissage. J'ai compris comment ça marche. J'ai compris qu'il faudra peut-être éradiquer ce virus, mais pas penser qu'on peut vivre normalement avec tous les jours. J'ai compris qu'on ne peut pas monter jusqu'à 40 000 cas par jour et que ça se passe bien. J'ai appris, en fait. Et donc, on va gérer mieux, différemment. Je m'implique, etc. S'il pouvait dire un truc comme ça, je pense qu'il rentrerait dans l'histoire d'une certaine façon, parce qu'il montrerait qu'on peut... Il peut devenir Édouard Philippe quelque part, il peut dépasser Édouard Philippe. Voilà.
Bah, en tout cas, il progresse dans les sondages. Nouvelle progression de 3 points pour le chef de l'État.
Absolument.
41% de satisfaits, il se
restructure. François Hollande, après le Bataclan, était monté à 50%.
Hein.
Il y a un réflexe.
Oui, mais là, pour Macron, il atteint son meilleur score depuis 6 mois. Mmh. Et quand on compare avec François Hollande et Nicolas Sarkozy, c'est plus haut que ces deux ex-présidents à la même période de leur mandat.
Ça veut dire qu'il a su rassurer.
Oui, et moi je me demande si finalement la répartition des rôles qu'on évoquait tout à l'heure et qu'on a tant contesté, voilà, on a un axe d'un côté Véran, on a de l'autre côté Bruno Le Maire et Gabriel Attal qui sont là, on a Jean Castex qui essaye de faire une synthèse et qui prend tous les coups, et on a la figure ensuite d'Emmanuel Macron qui arrive en troisième volée derrière, et finalement ça lui profite à lui. Je me demande si ce calcul-là, finalement, en tout cas pour lui, n'est pas un calcul pour le moment qui pourrait s'avérer gagnant, même si avec cette épidémie et les conséquences, on n'est sûr de rien.
Ah bah, oui, c'est évident qu'il a 2022 dans son viseur. Hein. Il sait très bien que la façon dont il va sortir de cette crise, le bilan qu'il aura après cette crise sanitaire sera peut-être décisif.
En une petite minute, François, parce que je sais que c'est l'une de vos passions, le sport, vous avez sans doute lu la tribune d'un certain nombre de responsables associatifs pour protéger ce sport amateur et ce terreau associatif qui fait souvent le lien social dans des quartiers défavorisés, qui est un peu la seule boussole de ces jeunes. Comment vous l'avez reçu ? Je ne sais pas si vous avez entendu la ministre des
Absolument.
Sports hein, qui semblait si, nous dire que tout était fait.
Elle m'a un peu rassuré parce que moi j'ai été effondré par le fait que seuls 120 millions d'euros dans le plan de relance, c'est-à-dire 0,1% du plan de relance soit accordé au sport. Quand on sait que le sport, un, dans sa pratique pour tout le monde, c'est une manière de nous protéger, de nous immuniser, aussi qu'on en a tous besoin, et de voir, comme le disait Daoud Asso, comment le sport aujourd'hui est un des vecteurs, plus encore que l'école, que de sauver des gamins qui sont en perdition, qu'on n'ait pas pris plutôt conscience de la catastrophe qui s'annonce pour le monde associatif. Y aura-t-il des bénévoles demain ? Pour les clubs aujourd'hui qui perdent environ 30% de leurs licenciés et qui ne savent pas comment ils vont être financés, il semblerait qu'il y ait une prise de conscience. Si j'ai bien entendu la ministre ce soir, il faut qu'elle se concrétise très vite parce que c'est un des enjeux majeurs.
Merci François Claus, merci Philippe Moreau-Chevrolet, Laetitia Krupa, nos grandes voix qu'on retrouve avec plaisir samedi et dimanche prochain. Merci à vous tous.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de l'info. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Car il est 19h, tout juste. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Voici le journal sur Europe.
Je demande instamment au président de la République la réouverture au plus tard le 28 novembre. Un samedi de plus, c'est sacré pour nous.
Les commerçants pressés de pouvoir rouvrir, ils attendent impatiemment les arbitrages d'Emmanuel Macron mardi sur l'assouplissement du confinement.
À la une également, un premier cas de contamination de Covid dans un élevage de visons en France. Les animaux ont été abattus pour éviter une possible mutation du virus. Et dans un instant, c'est le député Loïc Dombreval qui vient appeler sur Europe 1 une fermeture immédiate de ces élevages en France.
Le nouveau dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes sera présenté demain au ministre. Objectif, améliorer la prise en charge des victimes et la formation des policiers.
Et puis les effets bénéfiques du premier confinement sur le climat. La récolte de miel cette année en France s'annonce excellente. On est ensemble jusqu'à 20h. Et il ne s'agira pas d'un déconfinement, mais d'un assouplissement actuellement en vigueur. On en parlait avec les grandes voix il y a un instant. Mardi soir, dans son allocution, Emmanuel Macron annoncera donc, Sophie Tussaud, ses arbitrages.
Oui, le président promet de la cohérence, de la clarté et un cap. Selon le porte-parole du gouvernement, ces allègements de restrictions se feront en 3 étapes, autour du 1er décembre, avant les congés, puis à partir de janvier. Beaucoup d'annonces sont attendues sur les déplacements, sur la réouverture des lieux de culte et bien sûr des commerces. Les commerçants qui vont particulièrement être attentifs aux annonces, Johanna Chabas.
Oui, notamment les commerçants de produits non essentiels qui pour l'instant ont fermé ou peuvent seulement faire de la vente à emporter. Francis Palombi est président de la Confédération des commerçants. Il représente 450 000 petits commerces et il met en avant l'amélioration de la situation sanitaire pour demander à ce qu'absolument tous les commerces rouvrent le plus vite possible.
Je lance un appel et je demande instamment au président de la République la réouverture le plus tôt possible. Au plus tard le 28 novembre. C'est important parce que le 28 novembre, c'est un samedi. Et vous savez que dans le commerce, à l'approche des fêtes, c'est un mois mythique. Il y a des commerces qui font entre 30 et 60% du chiffre de l'année en cette période. Donc un samedi de plus, c'est sacré pour nous.
Et pour justement sauver Noël, les commerçants devraient pouvoir ouvrir tous les dimanches à partir du week-end prochain, selon Francis Palombi, qui a été reçu par la ministre du Travail. Une bonne nouvelle d'après lui, mais qui ne permettra pas de compenser totalement les pertes engendrées par le deuxième confinement, entre 30 et 50% du chiffre d'affaires, selon les secteurs.
Merci Johanna Chabas.
Des commerçants en résistance qui n'ont pas envie de laisser les géants du commerce rafler toutes les ventes en ligne, ça vous savez. Alors à Nantes, par exemple, les commerces de proximité ont décidé de s'organiser et ont mis en place un drive, Charles Guyard.
Aujourd'hui, c'est à nous de nous adapter aux clients et à ses attentes.
Après le click and collect, voici maintenant le multi-click et l'unique collect. Vous achetez à distance dans plusieurs boutiques, mais vous récupérez le tout en un seul lieu. Un système mis en place dès ce lundi à Nantes par l'association Plein Centre, Olivier Dardet, son président.
Dans la période un petit peu compliquée où on évite les déplacements, ça permet aux consommateurs de faire 3, 4, 5, 6 achats et demander aux commerçants de le faire livrer au même endroit pour aller chercher tous ses colis, les cadeaux commandés.
Des cadeaux, c'est justement ce que proposent les Petits Princes, une boutique de meubles et de décoration dont l'hypercentre et dont l'activité bat d'ordinaire son plein au moment des fêtes. Alors que le magasin doit pour l'instant rester fermé, sa patronne Sandrine Wroblewski voit dans ce concept une véritable aubaine.
Ça me permet de désengorger l'attente paquet cadeaux, parce que c'est toujours nous qui les faisons, et de pouvoir répartir ça sur toute la journée. Une fois que j'ai terminé, j'emmène tout à la collecte. Ça permet de fluidifier finalement le trafic au niveau des boutiques.
Des boutiques, elles sont près de 1200 dans le centre ville de Nantes qui vont pouvoir bénéficier de ce système de drive unique jusqu'au 31 décembre, 6 jours sur 7, de 10h à 20h. C'est gratuit pour les commerçants comme pour leurs clients. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et en attendant les annonces sur la réouverture des lieux de culte, les catholiques se sont à nouveau rassemblés aujourd'hui à Bordeaux et Toulouse pour réclamer le retour de la messe. Également dans l'actualité, ces inquiétudes après la première contamination au Covid-19 d'un élevage de visons en France. Après plusieurs cas en Europe, un foyer a été détecté en Eure-et-Loir. Les 1000 animaux ont été abattus. Un abattage préventif pour éviter que le virus mute sur les bêtes et recontamine l'homme. Il y a 4 élevages de visons en France. Un est indemne et des analyses sont en cours sur les deux autres.
Et avec nous ce soir en direct à 19h05, le député Loïc Dombreval, docteur vétérinaire et président du groupe d'études conditions animales à l'Assemblée. Bonsoir.
Bonsoir.
Après des cas semblables en Hollande puis au Danemark dans ces élevages de visons, il était pour vous hautement probable que cela arrive aussi en France ?
Oui, parce que les visons sont des animaux particuliers qui ont de grandes similitudes dans la façon avec laquelle ils répliquent le coronavirus, très semblable à l'homme. Ce qui est arrivé en Hollande est ensuite arrivé au Danemark avec une difficulté supplémentaire qui était que le virus avait muté et avait été retransmis de l'animal vers l'homme. Il n'était pas du tout dit qu'on observerait la même chose ici en France. Or, mais il se trouve que oui, en Eure-et-Loir, on a un élevage qui est atteint du virus, du coronavirus. Et la décision qui a été prise, malheureuse pour ces animaux, mais qui ont de toute façon un destin tragique tous les ans au mois de novembre-décembre puisqu'ils sont tués pour en faire des manteaux de fourrure, et bien là, effectivement, ils ont été abattus parce qu'il y avait un vrai risque de transmission à l'homme.
Ce soir, la Fondation Brigitte Bardot envoie une lettre à Barbara Pompili, qui est en charge de ce dossier pour la faune sauvage, avec ces mots « Le principe de précaution doit s'appliquer en veillant dès aujourd'hui à ne pas faire naître une nouvelle génération de visons condamnés à la captivité avant d'être gazés la saison prochaine et réclame une fermeture en 2021 et non pas en 2025 comme le souhaite le ministère. » C'est ce que vous demandez aussi, Loïc Dombreval ?
C'est exactement ce que je demande et ce que j'ai dit à Barbara Pompili. Il me semble que l'interdiction programmée d'élevage de visons à 2025 est beaucoup trop tardive au regard de cette particularité avec le coronavirus. Et je partage intégralement, ce n'est pas toujours le cas, la position de la Fondation Brigitte Bardot sur ces élevages de visons français.
Avec les risques pour terminer de contamination dans l'autre sens animal-homme, d'un virus qui aurait muté et qui ne serait pas un virus qu'on pourrait empêcher avec les vaccins qu'on est en train aujourd'hui d'élaborer.
Exactement. C'est la raison pour laquelle le Danemark a pris cette décision absolument terrible d'abattre ces millions de visons. On ne peut pas jouer comme ça avec la santé et le bien-être des animaux. On ne peut pas, évidemment, et encore moins, jouer avec la santé et le bien-être des êtres humains. Tout ça, d'ailleurs, est extrêmement lié. Et moi, je suis absolument désolé de voir que ces animaux entassés les uns sur les autres, qui vivent dans des conditions absolument déplorables et indignes, que ce type d'élevage existe encore en France. Fermons-les le plus vite possible. Si en plus ils transmettent des maladies aux êtres humains, alors on doit hâter. Évidemment, la fermeture de ces élevages.
Les fermer en 2021, toute la question ensuite se posera justement des personnes qui vivent de cette filière, comment on les réemploie, comment on les réaffecte. Merci Loïc Dombreval, président du groupe d'études conditions animales à l'Assemblée et député.
Durant cette période de crise sanitaire, il est bien sûr important de continuer d'aller voir ses parents ou ses grands-parents dans les EHPAD et de pouvoir le faire bien sûr en toute sécurité. Pour éviter toute contamination, plusieurs établissements en Gironde ont eu l'idée d'installer un mobilhome, un espace à part, spécialement dédié aux visites et aménagé pour éviter tout contact physique. Stéphane Place s'est rendu dans l'un d'entre eux à Caudreau, près de Langon.
un mobilhome installé dans la cour de cette EHPAD, c'est-à-dire à l'extérieur de la résidence qui accueille 73 pensionnaires. Sans rentrer dans le bâtiment principal, c'est dans ce gros bungalow, aménagé, joliment décoré, que les familles retrouvent leurs parents pour ne pas se croiser deux entrées différentes, l'une pour la personne âgée, l'autre pour ses proches, la directrice Élodie Duisabou.
À l'intérieur, il y a une paroi de verre qui permet de respecter les règles de distanciation, mais aussi de pouvoir enlever le masque, de pouvoir communiquer aussi par le sourire et vraiment de reconnaître leurs proches. On a équipé aussi pour les personnes qui avaient le plus gros problème auditif d'une sono. La famille a un micro et on a un amplificateur du côté des résidents pour qu'ils puissent bien communiquer.
Christiane est venue du Lot-et-Garonne pour rendre visite à sa maman, 93 ans.
Bonjour maman. C'est mieux qu'avant de te voir maintenant. C'est rassurant parce que lorsqu'on rentre dans la maison de retraite, bien sûr que c'est sécurisé, il y a le gel, etc. Mais c'est quand même anxiogène, tandis que là, c'est très bien.
Au revoir, maman.
Au revoir.
Et entre les visites des familles qui se succèdent, le mobilhome est à chaque fois désinfecté. Caudreau, Stéphane Place, Europe 1.
Europe Soir Weekend.
Vous êtes à l'écoute du journal de Sophie Tussaud sur Europe 1, 19h09 et c'est demain, lundi 23 novembre, que sera présenté à différents ministres le nouveau plan de lutte contre les violences faites aux femmes.
Quatre nouveaux dispositifs. Objectif, lutter contre les clichés, un meilleur signalement, former les policiers et mettre les femmes à l'abri, bien sûr. Pour élaborer ces outils, il y a eu, Caroline Baudry, un travail inédit entre des associations et des entreprises.
Oui, 400 000 personnes ont apporté leurs idées, leurs témoignages pour lutter contre ces violences. Trois ans plus tard, quatre dispositifs ont vu le jour, dont Mémo de vie, ce site internet ultra sécurisé, invisible dans l'historique. Des femmes peuvent y stocker des éléments, poster des photos d'un bleu par exemple, raconter une scène de violence, s'explique Axel Daucher de la plateforme Make.org qui a piloté ce travail.
Elle va avoir une sorte de mémo de tout ce qui lui arrive, qui a une première vertu qui est de l'aider à sortir du déni, et deuxièmement, qui va faciliter le dépôt de plainte. Elle va avoir une histoire à raconter. La justice a besoin de ça et a envie d'utiliser au maximum cette matière dans le processus de dépôt de plainte.
Autre action présentée demain, le financement de nuits d'hôtel pour héberger davantage de femmes en danger. Une nouvelle formation destinée aux policiers, conçue par le collectif contre le viol notamment. Enfin, un dessin animé pour lutter contre les stéréotypes. Ça s'appelle Chouette, pas chouette, 16 épisodes d'une minute 30 à retrouver dès le mois de janvier sur toutes les chaînes de télévision.
Caroline Baudry, dans le volet judiciaire, la reprise demain du procès de Charlie Hebdo en visioconférence. Les avocats sont contre. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, réaffirme sa volonté de multiplier ce genre de comparution. Autre procès demain, celui de l'affaire des écoutes. Nicolas Sarkozy va être jugé pour corruption et trafic d'influence. Il avait pris une fausse identité pour sécuriser ses conversations avec l'avocat Thierry Herzog en marge de l'affaire Bettencourt. Et puis au chapitre environnemental, la prochaine création d'un écocide pour sanctionner les atteintes graves à l'environnement, une proposition de la Convention citoyenne pour le climat.
Le climat, tiens, parlons-en. Il a profité du premier confinement, entre guillemets, et ça se ressent, en tout cas très concrètement, sur la récolte de miel.
Oui, elle s'annonce très bonne cette année, entre 18 et 20 000 tonnes, plus du double de l'année dernière, selon les apiculteurs qui ont publié leurs prévisions, Virginie Salmen.
Ça n'est pas une vitalité soudaine des colonies d'abeilles, juste un retour à la normale de la production après une année 2019 qui a été l'année noire des récoltes de miel, notamment à cause d'un printemps froid et pluvieux suivi d'une sécheresse et de deux épisodes de canicule. C'était du jamais vu depuis 70 ans. Cette année, on revient à des niveaux moyens, mais rien à voir avec les récoltes d'il y a 25 ans, époque où les abeilles ont amorcé leur déclin. Henri Clément, porte-parole de l'UNAF, l'Union des apiculteurs.
Auparavant, on avait des récoltes qui étaient autour de 30-32 000 tonnes avant l'arrivée des néonicotinoïdes. Maintenant, depuis plusieurs années, on sait que c'est très fluctuant. Ça dépend beaucoup des conditions climatiques. Mais les bonnes années, on est autour de 18-20 000 tonnes. Les mauvaises, on est autour de 10 000 tonnes. Et comme on consomme 40 000 tonnes de miel en France et un peu plus, puisque la consommation augmente sensiblement, eh ben on est obligé d'avoir recours à des importations qui sont aujourd'hui extrêmement importantes, puisqu'on est autour de plus de 30 000 tonnes chaque année de miel importé un peu de partout dans le monde.
Les apiculteurs mettent aussi en cause les frelons asiatiques apparus en France en 2005 qui déciment des colonies entières d'abeilles.
Virginie Salmen.
Merci Sophie Tussaud. Tout à l'heure, 19h30 pour nous informer. Le ciel.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à Arcade et Baie, produit de fabrication française. Arcade et Baie vous présente la météo.
La météo, c'est avec Valérie Darmon qui nous fait un petit peu la palette couleur de cette semaine. On vous écoute Valérie.
Eh bien demain, comme aujourd'hui, le soleil s'impose sur les trois quarts du pays, sauf sur les régions voisines de la Manche. Les nuages bas auront un peu de mal à se dissiper dans le Val-de-Saône et dans les plaines d'Aquitaine. Mardi, le vent s'orientera au sud, les nuages seront un peu plus nombreux, donnant quelques gouttes en Bretagne. Dans la soirée, le vent marin se lèvera en Méditerranée et apportera de nombreuses entrées maritimes en Languedoc-Roussillon. Après un début de semaine marqué par de fréquentes gelées, eh bien à partir de mercredi, les températures se radoucissent.
Merci Valérie. L'info sportive, on vous retrouve Julien Froment en foot avec la Ligue 1 et le match qui vient de se terminer entre Angers et Lyon.
Oui, et on retrouve Loïc Folio avec des braqueurs lyonnais qui ont encore sévi. Court succès pour les hommes de Rudy Garcia ce soir.
Service minimum mais profit maximum pour l'OL qui s'invite sur le podium à la faveur de ce succès 1-0 à Raymond Kopa. Il a suffi d'un but de Kadewere, son quatrième de la saison, pour offrir la victoire à l'OL. L'ancien havrais, bien servi par Léo Dubois, a exploité l'une des rares opportunités lyonnaises à la 77e minute. Les Rodaniens peuvent d'ailleurs remercier une nouvelle fois Anthony Lopez, auteur de trois arrêts décisifs face à des Angevins plus entreprenants mais inefficaces. Et quand Lopez s'est retrouvé battu, eh bien, c'est Diomandé qui a sauvé sur sa ligne en toute fin de match. Mission accomplie donc pour l'Olympique lyonnais, nouveau dauphin provisoire du Paris Saint-Germain.
Merci Loïc. Plutôt dans la journée, parmi les matchs à retenir, le spectaculaire Montpellier-Strasbourg 4-3 pour la paillade, et puis les succès à l'extérieur de Lens et Nîmes. Ce soir 21h, Lille 4e reçoit le FC Lorient et a donc l'occasion de repasser devant Lyon ou Monaco.
Et ce sera un match à suivre sur Europe 1 en votre compagnie. Bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
Avec un invité un peu spécial qui est un grand voyageur du foot mondial.
Absolument. Hervé Renard, vous connaissez ce nom, il a été le sélectionneur du Maroc, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire ou encore la Zambie. Il a entraîné aussi en Ligue 1 à Lille. Il est notre invité exceptionnel car ce soir, il est désormais le sélectionneur de l'Arabie Saoudite et à Riyad. Il nous donne une interview sans concession. Il parle de la situation des Français aussi, on vit en Arabie Saoudite, c'est pas commun, mais il parle aussi de foot et de son désir, peut-être après la Coupe du Monde 2022, de revenir en France. Et il n'élude pas la question sur l'Olympique de Marseille. Oui, il a bien été contacté l'année dernière pour remplacer Andrés Villas-Boas. Entretien à partir de 20h.
Voilà, foot et société aussi avec vous au sommaire d'Europe 1 Sport. Merci Lionel et à tout à l'heure. On va prendre le large, Julien Froment, avec le Vendée Globe et en tête de course, on prend un petit peu ses distances.
Oui,
hein.
Même si Charlie Dalin, qui est le dauphin, si je puis dire, de Thomas Ruyant, traverse une zone de vent faible, il en viendrait presque à souffler sur sa grande voile pour avancer.
C'est toujours du vent faible, du vent qui va continuer à faiblir. Essayer de continuer à travailler dans ce petit trou souris là, cette toute petite zone où on a du vent. Rester dedans surtout. Mon objectif c'est de rester dans ce groupe, de rester dans ce paquet. J'ai toujours dit que un des objectifs pour moi, c'était d'arriver dans le bon paquet dans les mers du Sud. Mon objectif, c'est vraiment ça, quoi.
Voilà, Charlie Dalin, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Europe1.fr. Il livre chaque semaine son carnet de bord.
On va parler rugby, évidemment.
Et oui, le 15 de France qui prend sa revanche sur l'Écosse. Victoire 22-15 dans le cadre de la Coupe d'automne des Nations. Cela faisait 6 ans que les Bleus ne s'étaient plus imposés à Murrayfield. Prochain match, la semaine prochaine, ce sera face à l'Italie au Stade de France. Et rugby toujours, top 14, match en retard de la troisième journée. Le leader, La Rochelle, reçoit à 21h05 le Racing 92. Enfin, un mot de judo. La Fédération française a un nouveau président. Il s'agit de Stéphane Nomis, ancien judoka international, qui déboulonne Jean-Luc Rouget, qui était en poste depuis 15 ans. La Fédération française de judo qui est en pleine tourmente après des révélations de cas de violences sexuelles.
Merci Julien Froment et Lionel Rousseau qu'on retrouve à partir de 20h sur Europe 1 pour toute la soirée sportive de l'antenne. Merci messieurs.
Europe Soir Weekend.
La demande alimentaire explose en France. On vous en parlait un peu le week-end passé. Et c'est la Banque alimentaire qui met en place sa grande collecte le week-end prochain en magasin, qui développe aussi une collecte digitale. Qui nous le dira ? Quelle réponse du gouvernement à cette réalité ? Marine Jeantet, déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté, est avec nous. Et j'accueille donc en studio Laurence Champier, patronne de la Banque alimentaire. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous au cœur de ce 18-20 avec la situation de la pauvreté en France qui nous préoccupe une nouvelle fois, l'explosion des demandes d'aide alimentaire un petit peu partout dans le pays. Voilà pourquoi il est essentiel de maintenir ce grand moment de solidarité qu'est la collecte de la Banque alimentaire le week-end prochain. Bonsoir Laurence Champier.
Bonsoir.
Vous êtes directrice fédérale des banques alimentaires de France. Vendredi, samedi, dimanche prochain, les bénévoles vont donc pouvoir recueillir à la sortie des magasins les dons des citoyens. Ils seront là, vos bénévoles, malgré les circonstances ?
Alors effectivement, ils seront là. On a la chance d'avoir des bénévoles hyper motivés. Beaucoup de nouveaux bénévoles aussi, puisqu'on a la chance d'avoir la réserve civique qui s'est complètement mobilisée pour nous et plus de 5000 candidatures à date. Des syndicats étudiants, des entreprises aussi, qui ont mobilisé leurs salariés, certes qui sont en télétravail, mais à faire du bénévolat pour nous le week-end. Donc on espère être quasiment partout où c'est possible, à l'ouverture des magasins, pour pouvoir récolter les dons.
Donc ça c'est magnifique, parce que dès qu'il y a un appel un peu de détresse pour ce qui concerne la solidarité, les Français ont beau être râleurs, ils sont toujours à ces rendez-vous-là. Hein.
Alors on le constate nous tous les ans, hein, ça fait 36 ans qu'on mène cette collecte nationale. Tous les ans on arrive à peu près à récolter 24 millions de repas pendant le week-end de la collecte. Et là, tout le monde est mobilisé. Et je sens même, au travers d'une plateforme dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard, un frémissement, déjà une semaine avant, et vraiment un engouement pour venir en aide aux plus précaires.
On va en parler maintenant de cette plateforme, parce que vous vous adaptez aussi aux circonstances sanitaires. Il y a bien sûr en physique cette collecte vendredi, samedi et dimanche prochain, mais cette plateforme solidaire que vous avez d'ores et déjà ouverte sur Internet et qui permet de donner ses dons et d'acheter donc des paniers virtuels.
Exactement, donc ça s'appelle Mon Panier Solidaire, on l'a lancé vendredi. On est déjà à plus de 135 000 euros récoltés et qui vont servir après le 15 décembre, quand on va fermer la plateforme, à acheter des repas. Mmh. Ça, c'est aussi une grande nouveauté pour le réseau des banques alimentaires, puisqu'on n'achète pas de denrées. On récupère notamment une grande partie des invendus de la grande distribution, des industriels, etc. Mais là, l'urgence fait loi, donc on a décidé d'acheter pour reconstituer nos stocks. Et Mon Panier Solidaire, c'est... Tout le monde peut participer à la hauteur de ses moyens, de faire un don, acheter un panier ou faire un don de quelques euros et ils seront utilisés à l'achat de denrées.
Et vous savez, Laurence Champier, que la demande sera plus importante sans doute que l'année précédente.
Alors là, on le constate, hein, on a une étude CSA qu'on réalise tous les deux ans et sur les six derniers mois, 34% des répondants sont des nouveaux répondants à l'aide alimentaire.
Ces chiffres sont inquiétants et on va y venir avec vous, Marine Jeantet, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Bonsoir madame, merci d'être avec nous.
Bonsoir madame.
Lorsque vous avez pris vos fonctions, c'était en mars dernier, vous n'imaginiez pas qu'en quelques mois, près d'un million de Français glisseraient sous le seuil de pauvreté. C'est un chiffre qui est avancé par les associations. Est-ce que ce chiffre terrible est étayé ou proche en tout cas de la réalité ?
Non, fort heureusement, ce chiffre n'est pas encore étayé. Je dis pas encore parce qu'effectivement, on ne peut pas préjuger de l'avenir, mais pour l'instant, ça ne repose pas sur des estimations fiables. On sait évidemment qu'il va y avoir de la bascule de personnes. Déjà, il y a déjà des gens très précaires qui sont en grande difficulté, notamment avec ce deuxième confinement, hein, qui aggrave encore la situation du premier confinement, suite au premier confinement. Mais on n'est pas encore à ce stade d'avoir un million de pauvres supplémentaires de manière formelle. Pour autant, on est extrêmement mobilisés et attentifs et on surveille tous les différents signaux qui peuvent nous remonter, notamment les demandes d'aide alimentaire pour essayer d'agir le plus en amont possible et éviter justement cette bascule d'une partie de public, de nouveaux publics notamment, d'indépendants, vous savez qu'on en parle beaucoup, de commerçants, beaucoup de jeunes aussi, les travailleurs non salariés, voilà, et aussi beaucoup de jeunes hélas, qui viennent grossir les rangs des demandeurs d'aide alimentaire, donc on est actuellement très actifs au sein du gouvernement pour réfléchir à des solutions adaptées à ces nouveaux publics.
Oui, vous avez ces chiffres, les mêmes que vient de nous donner Laurence Champier. 34% des demandeurs qui sont des nouveaux demandeurs. C'est votre public, j'allais dire, votre cible prioritaire, Marine Jeantet ?
C'est pas que la cible prioritaire parce qu'on s'occupe aussi des anciens pauvres entre guillemets. Voilà, il faut s'occuper de tout le monde. Il y a le flux, les nouveaux, mais il y a aussi tous les anciens qui sont déjà des gens très fragiles. Et j'insiste pour dire que ça reste malheureusement la plus grosse partie hein, des pauvres en France. Et on a une stratégie justement de prévention et de lutte contre la pauvreté qui est mise en place depuis deux ans pour justement essayer d'agir à moyen terme, notamment auprès des jeunes enfants, pour l'éducation, pour le maintien dans la scolarité. Parce que il faut absolument éviter la reproduction épouvantable de la pauvreté de génération en génération. Et donc, évidemment, il faut gérer l'urgence. Là, on est face à une crise inédite et heureusement qu'il y a cette mobilisation très forte de l'ensemble des acteurs de l'aide alimentaire qu'on soutient très activement et que je remercie chaleureusement parce qu'ils font un travail formidable. Mais il n'y a pas que l'urgence, il y a aussi le travail de fond pour éviter que tout ça se reproduise et essayer de sortir les jeunes, notamment. C'est pour ça que je parle beaucoup du public jeune. C'est vraiment l'avenir de la France. Donc, si on laisse ces jeunes s'enfoncer, ce sera forcément négatif pour tout le monde, quoi.
Oui, Laurence Champier pour la Banque alimentaire. On parle avec vous aussi de ces nouveaux demandeurs avec Marine Jeantet. Ces familles, vous les voyez, vous pouvez leur parler. Vous avez aussi des programmes d'accompagnement en dehors de cette distribution alimentaire.
Je pense que ce qui caractérise cette crise, c'est effectivement cette vague quand même qu'on voit arriver absolument gigantesque de nouvelles personnes. Effectivement, on a des familles, alors on les a vues pendant le premier confinement, qui étaient au chômage partiel, qui n'avaient plus de cantine, et donc avec un budget qui se réduisait comme peau de chagrin. Des étudiants boursiers, plus de cours, plus de petits jobs à côté de leurs activités scolaires ou universitaires. Ce qui est inquiétant, je pense, c'est surtout qu'on laisse croire qu'on ne prend pas en charge les gens. Mmh. Les associations, elles sont mobilisées depuis le premier jour du premier confinement, avec des portes qui n'étaient pas toujours ouvertes pendant le premier confinement à cause des restrictions sanitaires. Mais en tout cas, aujourd'hui, les associations sont à nouveau mobilisées. Il faut ouvrir les portes des associations. Il faut venir nous voir. L'accès au droit, c'est quelque chose aussi sur lequel je pense qu'il faut qu'on communique un petit peu plus. Chacun a droit à un petit peu d'aide. Et donc, voilà, je crois que c'est très compliqué, effectivement, les chiffres aujourd'hui qui sont avancés par les associations et par tous les partenaires sont en cours de vérification. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 12 ans, en 2008, il y avait 730 000 bénéficiaires qui venaient à l'aide alimentaire dans notre réseau. Aujourd'hui, c'est 2 millions. Ouais. Et donc, voilà, ça tangente, ouais. ça augmente. Et ça ne reflue jamais.
Ouais,
donc,
ça, c'est catastrophique. On recevait Marine Jantet la semaine passée, deux élus parmi la centaine de quartiers dans le rouge qui adressaient une lettre à Emmanuel Macron en lui demandant un vrai plan d'action contre la pauvreté. Le maire d'Arras, le maire de Clichy-sous-Bois. Et il demandait notamment le retour des emplois aidés, l'augmentation des minima sociaux, ne serait-ce que de manière éphémère, le temps de la crise, manifestement, le gouvernement a un petit peu repoussé cette hypothèse. Mais est-ce que vous allez revenir, vous, sur la table avec ces possibilités, Marine Jantet ?
Alors, c'est sûr qu'il y a eu... Enfin, la situation s'amplifie et se dégrade, on le voit bien. Donc, le Premier ministre a fait des annonces fin octobre pour justement renforcer les emplois aidés, hein, déjà dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, il y a déjà eu une augmentation qui a été significative, qui avait été annoncée fin octobre. On a aussi beaucoup d'actions en faveur de la mobilité. Vous savez, aider les gens à trouver un travail, parce que le frein aussi à trouver un travail quand il existe, parce qu'il y a encore des emplois qui existent. Hein. Il ne faut pas penser que tous les emplois sont détruits en France. Il y a encore beaucoup d'emplois, mais pas forcément à côté de chez vous, et on sait que les publics précaires parfois ont aussi des freins pour changer d'environnement. Donc on essaye de mobiliser tous ces facteurs-là, comme je vous dis, qui sont des facteurs de fond et très structurants. Pour autant, parce que même la revalorisation des minima sociaux ne sera pas la solution idéale et magique.
Bien sûr.
Voilà, on va pas doubler le RSA de toute façon, et voilà, et ce sera jamais, ça ne répond pas à tous les besoins, et c'est pour ça qu'on sait bien qu'il y a le besoin de solvabiliser aussi les cantines. Madame Champier en parlait, il faut effectivement, on a vu l'impact des cantines la fermeture des cantines pendant le premier confinement. Cette fois-ci, elles ne sont pas fermées et on essaye de développer, dans le cadre de la stratégie justement de lutte contre la pauvreté, des tarifications sociales qui permettent d'avoir des cantines à 1 euro là où n'existe pas. Et donc, en fait, la lutte contre la pauvreté, c'est très compliqué parce que ça touche beaucoup de choses et il faut accepter d'avoir plusieurs mesures qui viennent se compléter et qui font boule de neige pour aider les gens à s'en sortir. C'est rarement une seule mesure qui répond à tous les problèmes. Donc tout ça est à l'étude. Évidemment, là, la situation, je ne peux pas m'engager pour les décisions qui seront prises au plus haut niveau, mais le Premier ministre l'avait bien dit fin octobre, il s'était engagé à une sorte de droit de suite et évidemment à revoir en fonction de l'évolution de la situation. Donc on est au travail pour voir ce qui peut effectivement, quels sont les besoins et tout le monde avance un petit peu à vue aussi en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Hein. C'est vrai que là, il semblerait que ça va durer quand même un peu plus longtemps que ce qu'on imaginait au début du premier confinement. Donc, on doit aussi adapter les réponses à ces nouvelles perspectives économiques.
Bien sûr. Voilà. Oui, Marie Jantet, et je note ce que vous soulignez aussi, Laurence Champier, c'est la capacité à comprendre, même si c'est difficile, qu'on a des droits et qu'on peut être aidé, qu'on peut pousser les portes ou des Restos du Cœur ou de la Banque alimentaire, des banques alimentaires que vous représentez.
Mais,
hein, Marine Jantet et Laurence Champier.
Voilà, mais pas que le problème de l'aide alimentaire. Il y a beaucoup de droits. Vous savez, on a quand même beaucoup de chance en France, malgré tout, même si certains pensent
que c'est insuffisant. De l'accompagnement vers l'emploi.
Même les droits sociaux, tout. Le RSA, il y a quand même, vous savez, sans redistribution, on aurait 22% de personnes pauvres en France, on en a 15%. Donc voilà, il faut quand même voir qu'il y a un gros effet de la redistribution grâce à nos filets de sécurité. C'est une chance, jusqu'à présent on avait un des taux les plus faibles d'Europe, tant mieux, c'est quand même beaucoup trop, toujours évidemment. Mais du coup, il faut aussi que tout le monde entende bien que vous avez sans doute des droits, c'est pas toujours très lisible. Donc comme le disait Véronique Fayet, elle avait raison, je l'entendais la semaine dernière le redire, surtout allez voir des travailleurs sociaux, allez allez pousser la porte de vos, des centres sociaux autour de chez vous pour demander si vous n'avez pas des droits auxquels on sait qu'il y a un non-recours massif à certains droits. Il y a plein d'aides possibles en fonction de vos situations.
Donc, merci.
Vraiment, c'est un appel. Allez-y.
Merci Marine Jantet, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Un dernier mot, Laurence Champier.
Simplement, soyez au rendez-vous de la solidarité avec Mon Panier Solidaire ou la collecte nationale le week-end prochain.
Vendredi, samedi et dimanche prochain, on parle avec vous, Banque Alimentaire, de ce travail formidable, celui aussi des Restos du Cœur. Et si vous voulez participer à cette solidarité, je vous recommande ce petit livre, c'est 13 à table, des auteurs qui sous forme de nouvelles racontent leur premier amour. Leïla Slimani, Franck Tillier notamment. Un petit bouquin acheté, c'est 4 repas distribués. Voilà, on apporte aussi cela à la solidarité nationale. Merci beaucoup Laurence Champier.
Merci.
Pour cette grande collecte.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Et c'est l'heure du fil info. Sophie Tusson, on vous écoute.
Premier cas de Covid-19 détecté dans un élevage de visons en France. Le foyer se situe en Eure-et-Loire. L'abattage des 1000 bêtes a été ordonné pour éviter une possible mutation du virus et une recontamination sur l'homme. Noël, commerce, déplacement. Les annonces d'Emmanuel Macron mardi soir sont très attendues. Le président dira plus sur l'allègement des restrictions actuelles. Selon le porte-parole du gouvernement, l'assouplissement devrait se faire en 3 étapes. Autour du 1er décembre, avant les congés de fin d'année, puis à partir de janvier. Sur le front du vaccin, les dirigeants du G20 s'engagent à répondre aux besoins de financement pour sa distribution de façon équitable dans le monde, et notamment pour soutenir les pays pauvres. Les États-Unis, de leur côté, prévoient de commencer la campagne avant la mi-décembre. Aux États-Unis, où par ailleurs les Américains devraient très bientôt connaître les noms des membres du prochain gouvernement de Joe Biden, le président élu annoncera quelques noms dès mardi. Les atteintes graves à l'environnement pourront désormais être sanctionnées. Un délit d'écocide va être créé. La proposition avait été formulée lors de la Convention citoyenne pour le climat. Et puis en rugby, premier succès de la France en Écosse depuis 6 ans. Les Bleus se sont imposés 22 à 15 dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe d'automne des Nations.
Sophie Tusson, à tout à l'heure 20h sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard, le journal de l'environnement.
Voici au cœur de ce 18-20, le journal de l'environnement. Et on vous retrouve, Virginie Salmen. Bonsoir, Virginie.
Bonsoir, Wendy. Une petite question d'abord. Savez-vous dans quelle poubelle jeter votre masque chirurgical?
Malheureusement, je crois que dans les poubelles de déchets alimentaires.
Exactement. Surtout pas dans le bac jaune, c'est-à-dire pas dans le bac de recyclage papier plastique. Il faut le jeter, comme vous le dites, dans la poubelle classique.
Alors ça, moi je savais, c'est mieux surtout de les jeter dans cette poubelle que n'importe où ailleurs. C'est grave si on se trompe et qu'on met son masque dans la poubelle plastique justement.
Oui, ça casse les chaînes de tri. Pour comprendre, je suis allée dans un centre de tri de déchets en Seine-et-Marne, à Vaulx-le-Pénil. C'est un tapis roulant comme à la caisse sur lequel arrive tout le contenu de nos poubelles jaunes qu'on entend là. Et sur la chaîne de tri papier-carton, eh bien, on retrouve des masques qui n'ont rien à faire là. J'en ai compté un toutes les 20 secondes. Et ce sont des hommes et des femmes qui les retirent un à un à la main pour ne pas polluer la matière qui va être rachetée et recyclée. Mais ils ne devraient pas avoir à prendre ce risque. Et c'est ce que regrette Monique Calassi, cadre de ce centre de tri Veolia.
Ce geste-là, il est très compliqué à demander à nos trieurs. Parce que qui dit masque, c'est une contamination potentielle. On a fait une analyse de risque. On a mis en place plein de gestes barrières pour qu'ils puissent être protégés. Mais le geste reste assez difficile à faire. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont des familles, des enfants, qui ont peur comme tout le monde.
Alors, les agents du tri sont équipés de masques, bien sûr, mais aussi de gants épais pour attraper ces déchets. Et malgré ça, Alphonsine a toujours une appréhension.
J'ai 4 enfants. C'est pour ça aussi qu'on est un peu réticente. On a peur aussi de ramener la maladie aussi à la maison. Les gens qui jettent, qu'ils fassent attention. De penser aussi aux gens qui travaillent derrière pour les enlever.
Et s'il y a trop de masques qui arrivent d'un coup sur le tapis roulant, certains agents demandent carrément à arrêter la chaîne de tri. C'est déjà arrivé dans ce centre de Vaulx-le-Pénil.
Merci pour ce reportage parce que c'est extrêmement concret. Donc faites bien attention et mettez vos masques chirurgicaux dans les poubelles alimentaires. S'il y a des masques dans la matière à recycler, Virginie, ça veut dire qu'elle ne vaut plus rien, cette matière?
Oui, c'est ça. Les acheteurs de ce papier ou carton compacté, vous savez, en balles carrées, refusent ces dernières semaines de plus en plus de livraisons à cause des masques, nous explique la responsable du centre de tri, Anaïs Poisson.
Si le repreneur retrouve un masque dans la balle de carton-cartonnette, ils peuvent déclasser le camion. Le camion, dans ce cas-là, doit revenir chez nous. Donc on rafraîte le camion pour qu'il revienne chez nous. On paye tout et ensuite on doit retrier par-dessus tout ce qui a déjà été fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de masque.
On a vraiment conscience ici de la chaîne de conséquences que cela induit, hein, Virginie Salmen. Donc, message est clair.
Voilà, donc plus de masques chirurgicaux dans le bac jaune. On peut même utiliser, pour ce sera plus simple encore, des masques en tissu lavables. Comme ça, il n'y a plus de risque et c'est quand même aussi moins cher.
Merci pour ce reportage sur le terrain, Virginie Salmen, pour le Journal de l'Environnement. Et au week-end prochain, dans le 18-20 d'Europe 1.
À la semaine prochaine.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Planète sauvage.
Il est 19h34 et je suis ravie de parler ce soir des animaux avec tendresse, humour, facétie, esprit, gratitude. Tout cela, c'est dans votre livre « Merci qui ? Merci mon chien ». Bonsoir Jean-Louis Fournier.
Bonsoir Wendy Bouchard.
« Merci mon chien », voilà une expression péjorative que soudain vous rendez belle, aussi belle que l'amour inconditionnel que porte le chien à son maître, ça vous tenait à cœur.
Ben, si vous voulez, je trouvais qu'on était d'une grande ingratitude avec les animaux. Parce qu'on ne leur dit jamais merci. Et Dieu sait pourtant qu'ils enchantent nos vies. Les oiseaux enchantent le ciel, les poissons enchantent la mer. Imaginez une forêt sans animaux. C'est le paradis terrestre, d'ailleurs, est rempli d'animaux. Il est bourré d'animaux. Il y a Adam et Ève, bien sûr, mais il y a aussi surtout plein d'animaux. Et puis tout ce qui nous rend, la beauté qu'ils amènent, la fantaisie. Moi, je suis un peu vraiment... Je les adore, ils me bouleversent.
Jean-Louis Fournier, vous les connaissez depuis longtemps d'ailleurs, ces animaux. Les auditeurs qui, dans les années 70, étaient enfants, se souviennent peut-être notamment de l'émission télé, format dessin animé que vous avez créé, La Noiraude, où vous mettez en scène une vache. Hein
oui, j'ai fait parler La Noiraude. C'était une vache hypochondriaque qui appelait son vétérinaire parce qu'elle avait toujours un truc de travers.
Écoutez-la,
et puis j'ai fait aussi un oiseau.
Écoutez-la, La Noiraude, s'il vous plaît, regardez Jean-Louis Fournier.
Allô ?
Bonjour docteur, la Noiraude à l'appareil.
Bonjour la Noiraude, qu'est-ce qui ne va pas encore ?
Docteur, il paraît que mon lait a un drôle de goût.
Ah bon ? Quel goût ?
Un goût de vache, ça paraît normal, non ?
Quand on parle de goût de vache, la Noiraude, on veut dire que votre lait a un goût un peu fort qui ne plaît pas à tout le monde.
Ils n'ont qu'à boire du lait de chèvre.
Voilà, était au fait de la société, cette Noiraude, Jean-Louis Fournier. Hein. Il y avait des
J'ai toujours aimé faire parler les animaux, parce que j'ai fait un oiseau aussi qui a le vertige. Je trouve que c'est passionnant quand on écrit des choses, de faire parler les animaux, parce qu'on peut inventer tout ce qu'on veut, parce que, vous savez, ils pensent les animaux, quoi que disent Descartes. Descartes, pourtant, qui est un homme intelligent, a dit qu'il n'avait aucune sensibilité, aucune émotion, que c'était des machines. Ce ne sont pas du tout des machines. Moi, je suis persuadé qu'ils pensent, mais ils ne parlent pas.
Alors, bon, c'est ça qui est beau. C'est ce lien indicible que vous racontez, vous qui avez en ce moment avec vous une petite chatte que vous avez surnommée Art Déco. C'est tout ce qui se passe entre l'animal et nous. Ce dialogue insoupçonné, dans le silence, dans le regard, justement.
Je crois que les relations silencieuses sont précieuses. Je crois que c'est très important, parce que les mots, quelquefois, ça gâche les choses. Mais les gestes... Et puis, on ne ment pas quand on n'a pas de mots. Il faut des mots pour mentir. Les mensonges, c'est fait avec des mots. Quand il n'y a pas de mots, on ne ment pas.
C'est la vérité animale. On ne saura jamais à quoi ils pensent, écrivez-vous, et c'est peut-être ce qui nous fascine le plus.
Ah, c'est passionnant de regarder leurs regards, regarder les regards d'un animal. C'est troublant, parce qu'on a l'impression de voir le mystère de la nature, et on ne saura jamais ce qu'ils veulent dire.
Il y a de l'empathie, évidemment, de l'humour et de la tristesse mêlée, Jean-Louis Fournier, dans Merci qui, merci mon chien. Un chasseur peut-il assister à l'enterrement d'un oiseau qu'il a tué, demandez-vous ? Oui. À condition de ne pas être armé et de se tenir au fond de l'église, les yeux baissés et l'air gêné. Ça, c'est vous, c'est du Fournier.
Oui, j'aime bien, c'est formidable d'écrire, vous savez, parce qu'on peut écrire des bêtises. Quand j'étais petit, j'écrivais des bêtises sur mon cahier, je me faisais engueuler, j'étais puni, j'étais au pain sec. Maintenant, je suis payé pour écrire des bêtises.
Vous qui connaissez bien les animaux, Jean-Louis Fournier, vous nous rappelez que vous avez été fermier, que vous avez eu des vaches, mais beaucoup de vaches.
J'ai eu 70 bêtes à cornes. J'ai eu 70 vaches et puis à l'époque il y avait encore quelques chevaux et c'était très émouvant d'être dans l'étable. Elles me regardaient d'une façon bizarre parce qu'elles trouvaient que j'avais pas une gueule de cultivateur, je pense. Elles étaient étranges, elles me regardaient bizarrement les vaches.
Alors on peut aimer les animaux et continuer à les manger, c'est une question que vous posez. Peut-on manger celui qu'on aime ?
Écoutez, c'est le gros problème, il faudrait déculpabiliser les gens qui mangent de la viande parce qu'on me dit « t'adores les animaux mais tu les manges, et alors ?» Oui, mais je vois pas tellement... Le problème, c'est la souffrance animale. Tuer une bête, si c'est proprement fait, si vous voulez, les bêtes meurent, et puis nous aussi, on meurt, c'est peut-être pas la pire des choses qui arrivent, mais c'est souffrir qui est intolérable. Et c'est ça qu'il faut surtout faire. Moi, j'ai fait une lettre à un bœuf à qui je viens de manger une côte de bœuf, et je lui écris pour le remercier au bœuf. J'envoie une lettre.
Mais voilà, c'est la reconnaissance, la gratitude qui émaille ce livre. Les
et
animaux
pas,
sont
oui.
beaux, sont beaux. Certains sont des chefs-d'œuvre, écrivez-vous, Jean-Louis Fournier. Vous dites qu'ils ont de l'humour. Comment ça ? Comment vous le comprenez,
ben, si vous voulez, ils ont de la fantaisie. Mmh. C'est-à-dire, ils ne sont pas sérieux. Moi, je vois, par exemple, ma petite chatte, elle est capable de griffer des tapisseries d'Aubusson. Et, c'est extraordinaire.
Vous lui pardonnez.
Complètement.
Voilà.
Ils ne respectent pas les choses. Et puis, ils sont surtout beaux. Regardez les petits chats, tout ça, c'est bouleversant.
Vous aviez envie justement de renverser un petit peu les choses, cette matrice, surtout en ce moment, on parle de pandémie, d'élevage de visons contaminés, qui nous conduit à être trop peu reconnaissants avec les animaux et peut-être d'induire aussi un petit peu les raisins de notre souffrance à venir, hélas, en ne les respectant pas assez.
Et puis vous savez, ça c'est la première fois que j'en fais, j'ai fait un remerciement à tous les animaux de laboratoire.
Mmh, c'est vrai.
Parce que tous ces animaux qui sont là, qui sont avec des électrodes dans la tête, qui vivent dans des caves, dans des conditions épouvantables, tout ça pour notre bien-être, nous les hommes. Pour qu'on vive mieux, il y a des bêtes qui souffrent. Et je trouve que c'est la moindre des choses de leur dire merci.
C'est un livre très attachant, Jean-Louis Fournier. Vous citez quelques auteurs, mais surtout, on a plaisir à vous lire. Mais je voudrais quand même relayer quelques mots d'Éric De Luca, qui figure dans ce livre-là, qui a rencontré un orang-outan dans le zoo de Jakarta. Et il écrit, « Il est venu à ma rencontre, il était loin, vieux, énorme, j'étais seul. Cet animal a traversé sur ses poings la distance, il s'est planté face à moi, il m'a regardé. Je suis resté 60 secondes figé dans cette éternité du regard de cette personne. J'ai eu le sentiment d'avoir été adopté par cet ancien vivant de la Terre. » C'est ce que vous ressentez, vous aussi, quand vous allez dans des lieux de captivité. Moi, c'est magnifique. Hein. C'est ce qu'on...
Je trouve ça bouleversant, ce texte de Luca. Et puis, c'est vrai que quand on est comme ça devant un animal, encore plus alors les grands singes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose entre nous, parce qu'on est des vivants. On est deux espèces différentes. Et puis, on peut s'adorer. On a des tas de choses entre nous.
Et on se plaint souvent des animaux qui font du bruit. Eux ne se plaignent jamais de nous, a fortiori nos animaux de compagnie.
J'ai honte de mes semblables, quand même, le mec qui gueule, parce que le rossignol n'empêche de dormir. Le gars, il y a des camions qui passent toute la nuit, et puis il y a un rossignol qui chante. Il veut tuer tous les oiseaux qui chantent. Non, mais ça, c'est. Et j'ai vu des procès pour des grenouilles aussi qui font trop de bruit. Qu'est-ce que c'est que ce genre de choses? Il y a des humains qui sont pas très sympathiques.
Oui, puisque vous parliez de Descartes, vous demandez aussi qu'un jour l'association des amis de Descartes s'excuse auprès de tous les animaux de la Terre hein, sur cette théorie de l'animal-machine, car c'est tout le contraire qu'on lit dans vos lignes. Combien les animaux nous aident aussi à vivre les épreuves difficiles de la vie. Et vous êtes bien placé pour le dire aussi, Jean-Louis Fournier.
Et vous savez une chose, là, pour revenir sur cette fameuse épidémie dont on parle, hélas, pour le problème de proximité, il ne faut pas approcher les gens, hein, vous avez compris, il y a un moyen très simple, c'est acheter un lion ou un tigre, et une laisse de 1 mètre. Vous n'allez pas avoir de gens près de vous.
Voilà,
vous allez être tranquille. C'est une façon, bon, et après il y a l'entretien du lion et du tigre, c'est pas évident, mais enfin, pensez-y.
Merci beaucoup Jean-Louis Fournier. Alors je rappelle qu'après vos magnifiques ouvrages, Où on va papa, Ma mère du Nord, Je ne suis pas seule à être seule, il y a cette chatte Art Déco qui vous accompagne dans vos réflexions sur le monde. Merci qui ? Merci mon chien. Ce tendre savoir-vivre avec les animaux qui vous ressemble, Jean-Louis Fournier, c'est chez Buchet-Castel, Chastel, et je le recommande évidemment aux auditeurs d'Europe 1. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt, Jean-Louis Fournier. Europe Soir Weekend. On se retrouve dans une chanson dans la tête avec un artiste masculin à l'univers très reconnaissable qui sort un nouvel album le 4 décembre, qui a chanté notamment Face à la mer et qui est avec tout de suite dans les histoires et anecdotes de Fabien Lecoeuf sur Europe 1. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Une chanson dans la tête.
Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Plaisir de vous retrouver, vous notre spécialiste de la chanson française, avec un artiste à la une ce soir sur Europe 1 que vous allez reconnaître tout de suite.
Comme c'est un homme et une femme, et c'est tout un programme, à ciel artificiel.
Ouais, c'est peu dire qu'il a un univers très établi, à la fois dans sa musique et dans son ton. Calogero sortira le 4 décembre son 8e album intitulé Centre-ville, et vous nous parlez de ce compositeur-interprète qui est devenu assez incontournable ces 20 dernières années, Fabien.
Exactement, Wendy. Après des débuts avec son groupe Les Charts, personne n'a oublié, entre 1987 et 1997, c'est véritablement en 2000 que Calogero s'est révélé en solo avec l'album Au milieu des autres. Et on peut le dire, et vous l'avez précisé, depuis 20 ans, il enchaîne les succès. Et depuis quelques mois, sa nouvelle chanson, La Rumeur, passe beaucoup bien sûr sur Europe 1 et figure alors sur son prochain 8e album à paraître vendredi 4 décembre.
Elle passe d'un bruit qui court en une des casques. Elle peut faire passer ton père pour un tox. Courez, courez, elle prend de l'ampleur. Elle tourne autour de toi, la rumeur.
Et c'est formidable, c'est vraiment un artiste engagé. Ce sont des sujets de société, hein, on en parlera un petit peu plus tard. Calogero aime chanter aussi, lui qui fêtera ses 50 ans le 30 juillet prochain.
Et absolument, Wendy, ce fils d'immigré sicilien a grandi à Échirolles, vous savez, c'est en Isère, près de Grenoble. Mmh. Et de 12 à 15 ans, Calogero adopte un look new wave, on va dire, en hommage au groupe Les Cure. On l'a oublié, il rase une partie de ses cheveux, oui, teint en noir ce qui lui reste, et se laisse pousser une mèche d'environ 20 cm. C'est lui qui me l'a raconté lui-même. Hein. Problème, ses cheveux frisent, oui, et il les enduit alors de savon de Marseille, pour ceux qui nous écoutent, pour obtenir l'effet escompté. Et à 15 ans, bien sûr, il fonde un groupe en référence à ses idoles, Dépêche Mode.
Il y a une influence hein, chez Calogero, très clairement.
Évidemment, alors comme ce groupe culte était classé premier dans tous les charts américains, il baptise alors son nouveau groupe, les Charts, tout simplement. Pour ce groupe, formé de son frère et d'un ami d'enfance qui habite au-dessus de l'appartement familial, Calogero se fait appeler Charlie.
Et pour les Charts, ça marche tout de suite ?
Alors pas vraiment, Wendy. Dans l'intervalle, il devient apprenti plombier chez un patron qui trouvait d'ailleurs que son jeune apprenti avait une voix de canard.
Donc, ouais.
Ça ne s'invente pas. Hein. Bon. Mmh. Il quitte alors Grenoble et ses parents car il vient de décrocher un job dans la capitale, un emploi au rayon boucherie du Monoprix de la rue de Rennes à Paris. Calogero emménage alors dans une chambre de bonne près des Champs-Élysées avec pour seul bagage, tenez-vous bien Wendy, un matelas et dans sa poche un billet de 200 francs. Le premier soir, il est pris d'un énorme cafard, évidemment, dans la capitale. Il descend alors au restaurant, en bas de chez lui. Drame, évidemment, au moment de régler l'addition, 180 francs.
Ouf, ça s'est remis les pieds sur terre, le pauvre. En tout cas, c'est une rencontre avec France Gall qui va permettre d'accélérer les choses dans la carrière de Calogero, France Gall. Eh oui, elle l'a tenu debout.
Exactement, Wendy. En 1986, France Gall participe à l'émission La Nouvelle Affiche, en direct de Grenoble. Et Calogero, qui apprécie beaucoup la chanteuse, profite de son passage à Grenoble pour tenter de la rencontrer. Alors, il s'arrange pour savoir dans quel restaurant elle va dîner après sa prestation. Et avec l'audace de la jeunesse, il va dans le même restaurant et l'aborde à la fin du repas. France Gall est touchée, bien sûr, par ce jeune artiste. Le recommande à Philippe Gaillard. Philippe Gaillard qui travaille pour la maison disque Apache, vous savez, c'est la maison 10 de France Gall. Mmh. Et Philippe Gaillard a un véritable coup de foudre pour le groupe de Calogero. Il devient leur auteur et producteur et les prend sous son aile. Les Charts sortent en 89 leur premier album, L'Océan sans fond, avec le titre Je m'envole, qui est le premier véritable succès du groupe.
Ça, c'est encore avec les Charts que navigue Calogero. Mais en 1999, là, il prend son envol en solo pour le coup, Fabien.
Alors totalement, Wendy, après 5 albums
même,
avec les Charts, et oui, à 28 ans, Calogero décide de se lancer dans une carrière en solo. Et ce n'est pas gagné au départ, hein. Même loin de là, car personne ne croit alors en lui. Et pour subsister, le jeune musicien travaille dans une pizzeria. Bien évidemment, il continue de composer des mélodies. Et c'est une rencontre avec Pascal Obispo, il faut le rappeler, qui va lui permettre d'enregistrer son premier album solo, Au milieu des autres, qui paraît le 10 mai 2010, avec notamment...
Si on part de prendre l'air de tout ce ciel qu'on a perdu, où la beauté nous appartient, où le silence nous plaît bien... Pour d'autres marchands d'horizon, d'autres marchands de saison, où la pensée n'est pas certaine si on y partait quand même.
Avec son deuxième album, Calogero va obtenir la consécration.
Exactement,
ça va de mieux
oui,
en mieux.
Et oui, son deuxième album éponyme paru le 20 février 2002 qui se vend à plus d'un million d'exemplaires et reste 104 semaines, c'est énorme. Soit 2 ans dans les classements de vente.
Oh là là.
Plusieurs singles sont extraits de ce disque, dont notamment...
En apesanteur.
Pourvu que les secondes soient des heures,
Et oui, une chanson, Wendy, qui a d'abord été créée en anglais avant d'être traduite en français par une auteure femme, Alana Filippi, qui s'est inspirée des féministes américaines qui dénonçaient le regard des hommes quand elles se retrouvaient seules avec l'un d'eux face à face dans un ascenseur. La chanson est restée 20 semaines en tête des ventes durant l'été 2002.
Calogero n'écrit jamais les paroles de ses chansons, hein, mais il fait pas mal appel à des auteurs féminines puisqu'on en parle.
Exactement, Wendy, à part un seul texte en 2009, ce qui s'appelait « Je me suis trompé », Calogero ne s'en est jamais caché. Il est un très bon mélodiste, mais davantage de mal, on va dire, avec les textes. Mmh. Et il ne se trouve pas assez rapide à son goût pour écrire des paroles. Il préfère faire appel à de bons auteurs, et souvent ce sont des femmes, car il les trouve très douées pour écrire des chansons. Il a travaillé notamment avec Zazie, Julie Démé, et puis, bien sûr, Françoise Hardy avec ce titre.
Noir sur blanc, j'écris mes mots, les nerfs à cran, sans garde-fou ni fou.
Très beau succès pour Françoise Hardy, hein.
Et oui, bien
mélodie
sûr.
De Calogero.
Et oui, et plus récemment avec sa seconde femme, Marie Bastide, qui a signé de très nombreux succès, comme Les Feux d'artifice, qu'il avait magnifiquement interprété, souvenez-vous, en 2017, lors de l'hommage aux victimes de l'attentat de Nice, à la demande des familles des victimes.
On allait aux feux d'artifice, voir ces étoiles de pas longtemps qui naissent, qui brillent et puis qui glissent.
Oui, et sur ce même album, paru en août 2014, hein, c'est une autre chanson qui a beaucoup marqué les esprits puisqu'elle faisait référence, je parlais de la société, à un tragique fait divers.
Bien sûr, Wendy, le premier extrait de son sixième album paru en 2014, Un jour au mauvais endroit, est un vibrant hommage, bien sûr, aux deux jeunes garçons de 20 ans assassinés le 28 septembre 2012 dans le quartier des Granges, justement à Échirolle, cette banlieue de Grenoble où Calogero a grandi. Alors, il avait beaucoup été choqué de la violence qui avait envahi son quartier d'enfance, qu'il aimait tant, et le 13 février 2015, lors des Victoires de la musique, cette chanson a été désignée par le seul vote du public, chanson originale de l'année.
Toi, mon frère, dis-moi pourquoi la vie continue sans moi. Dis-moi pourquoi j'étais là. Un jour au mauvais endroit, les cafés, les cinémas, je n'y retourne.
La carrière de Calogero, quelques anecdotes choisies par Fabien Lecoeuvre, lui qui fêtera ses 50 ans au mois de juillet prochain et qui sort surtout le 4 décembre son 8e album, à retrouver en podcast sur europe1.fr. Vous avez déjà le sommaire ou des idées pour la semaine prochaine,
mais
Fabien?
La semaine prochaine, on parlera bien sûr de Michel Berger, car s'il a été toujours parmi nous, il fêterait ses 73 ans. Et puis, c'est le 28 novembre évidemment, et puis on parlera de Patrick Bruel qui sort un DVD live événement et qui s'annonce déjà comme un grand succès.
Merci Fabien Lecoeuvre, vous savez tout pour le programme. À la semaine prochaine, il est 19h52.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
C'est l'heure de retrouver Mathieu Béliard avant qu'il ne vous informe demain dès 7h du matin. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Wendy, bonsoir à toutes et à tous.
Pour votre série de podcast Les Éclaireurs, vous recevez ce soir une femme, elle est sociologue et elle vous parle des pères.
Elle ne parle des papas, elle ne va nous parler de ce qu'on appelle les nouveaux pères, à ne pas confondre avec le papa poule, hein, expression un peu facile qu'on utilise pour les papas qui s'occupent de leurs enfants. Non, aujourd'hui un papa est un papa relationnel, nous dira Christine Castellin-Meunier. On a besoin de se sentir utile, d'être présent à la maison. Je dis on, hein, je vais m'inclure dedans très évidemment. Évidemment, j'ai pris ce sujet parce qu'il me passionne aussi. Oui. Ces nouveaux pères, par rapport aux années 70, hein, début années 80, on va peut-être dire, qui sont ces papas qui s'investissent. Et on va découvrir avec Christine Castellin-Meunier que ça n'est pas si nouveau que ça. Qu'en fait, à partir de la Révolution, on a inhibé le papa dans son rôle, mais que dans le temps, au Moyen-Âge par exemple, les papas emmenaient les petits dans les champs, ils changeaient les couches, ils leur faisaient à manger, comme on le voit aujourd'hui avec cette nouvelle génération de papas.
Alors elle ausculte la société comme sociologue, elle vous explique aussi que parfois les femmes ont du mal à laisser de la place à ses pères, justement.
C'est très important, elle le répète, je ne sais pas combien de fois dans le podcast, il faut que les femmes laissent leur place à ses papas, parce que ça va dans les deux sens, et évidemment c'est un équilibre homme-femme, un équilibre masculin-féminin, qui est bousculé sur bien des aspects, ça on le raconte très souvent dans la société, il y a plein de questions qu'on peut se poser qui sont légitimes, mais en attendant, à la maison, dans le couple, dans le foyer, il faut aussi que, allez, on va dire, les mamans ouvrent un peu leur chakra pour laisser de la place à ces nouveaux papas.
Extrait de ce podcast autour des nouveaux pères, ce soir sur Europe 1.
Bonjour Christine Castellin-Meunier.
Bonjour.
Faisons un petit peu d'histoire, on parle de 1970, on va même remonter beaucoup plus loin.
Ouais.
Vous dites qu'au Moyen-Âge, les papas s'occuper des bébés, changer les couches.
Voilà, mais on ne disait pas qu'ils étaient papa poule. Il y a vraiment une
une épopée historique, moi, que je trouve passionnante autour de la paternité. Et c'est pour ça que moi, j'ai bossé sur la paternité. Après avoir bossé sur le mouvement des femmes, j'ai été voir comment ça se passait du côté des hommes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au Moyen-Âge, les paysans, ils travaillaient dans les champs, mais aussi à la maison. Et ils emmenaient les tout-petits dans les champs. Et tout le monde s'occupait des enfants. Et il y avait véritablement une implication des hommes dans tout ce qui concernait les affaires domestiques aussi. Mais les papapoules, du côté des paysans, pas du côté de la haute. Pourquoi ? Parce que dans la haute, on ne s'occupait pas des enfants. Même les femmes les donnaient en nourrice. Hein. Donc là, il faut être bien clair. Alors, j'aimerais aussi pouvoir remonter à Sapiens, parce que c'est passionnant. Voilà. On nous a toujours dit que l'homme préhistorique était un homme, hein, et que c'était le chasseur, et c'était le guerrier, etc. Grosse erreur. Et les anthropologues nous en parlent beaucoup maintenant. Donc, l'homme préhistorique était aussi une femme. Et en fait, les femmes qui étaient des nomades, hein, des chasseurs-cueilleurs, bref, elles avaient les bébés, mais les hommes s'occupaient aussi des bébés. Et tout le clan, une cinquantaine de personnes, prenaient en charge les enfants, les bébés, les invalides et tout ça. Donc on vire cette image de l'homme violent, on vire cette image que l'humanité est née avec la domination masculine. Et c'est important pour s'émanciper de tous les stéréotypes concernant le masculin, le féminin, la paternité, la maternité, de se dire, bah oui, c'est pas inhérent à l'espèce humaine. Il y a eu comme ça une épopée dans l'histoire assez fabuleuse et on arrive à la Révolution française, où c'était l'âge d'or des pères, parce que le père possédait tous les pouvoirs, y compris sur les enfants majeurs. Il pouvait les faire envoyer en prison si l'enfant ne voulait pas épouser la femme que le père voulait qu'il épouse, etc., etc. Et donc là, à la Révolution française, il y a une diminution du pouvoir des pères. Il n'a plus le droit de déposséder le cadet par rapport à l'aîné, il n'a plus droit de déposséder la fille par rapport au garçon et il perd ses pouvoirs sur les enfants majeurs. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on sent bien que ça libère des choses du côté des relations entre les hommes et les femmes. Mais par contre, les sphères de vie se séparent. Et du coup, on a l'homme qui part travailler loin de chez lui. Les hommes sont dans la sphère publique, les femmes dans la sphère privée. Et là, les rôles se clivent entre les hommes et les femmes. Et la mère est mère, épouse, elle élève ses enfants, c'est la seule qui s'occupe des enfants. Et le père, lui, c'est ramener l'argent, avoir un rôle social, politique, etc. Et là, c'est un appauvrissement, finalement, du côté des fonctions parentales. Et on a hérité de ça aujourd'hui. Et on a bien du mal à s'en défaire, et donc on a bien du mal à accepter qu'on est passé d'une paternité institutionnelle à une paternité relationnelle.
C'est quoi la paternité relationnelle ?
La paternité relationnelle, c'est une paternité où le père est présent, s'occupe des enfants. Un père aujourd'hui, un jeune père qui avoue qu'il ne sait pas changer son enfant, ça fait tâche, qui avoue qu'il ne sait pas composer un biberon, ça fait tâche. Un père impliqué, relationnel, il est présent et il connaît les besoins de son petit et il sait s'en occuper. Et il entre en relation, en communication avec ce petit et il comprend les besoins de ce petit.
Le nouveau père, il est viril ?
Ouais, bien sûr. Justement, j'ai tourné beaucoup autour de ça. Parce que je suis tombée sur la définition étymologique de viril. Alors, viril, autrefois, prenait un E. Et c'était associé à vis, vir, veneror, Vénus. Et c'était la référence à force de vie. Désir ardent de vivre. Et bien sûr, on comprend que là, dans ce sens-là, eh ben, ça s'adresse au vivant, qu'on soit fille ou garçon, qu'on soit homme ou femme. Et ensuite, on a retiré le E au profit du masculin uniquement, et en fait au profit du guerrier, au profit du conquérant, au profit du destructeur. Hein. Et là, effectivement, viril est devenu quelque chose qui renvoie à la domination, au machisme. Alors, ma réponse à le papa impliqué relationnel est-il viril, hein ? C'est bien sûr que oui, mais dans le sens du non-machiste. Viril, mais non-machiste.
Voilà le podcast Les Éclaireurs. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur Europe1.fr, bien sûr, ou sur les plateformes d'écoute dès demain. C'était le 18-20 d'Europe 1 à partir de 6h. C'est Sébastien Krebs qui vous informe demain, Mathieu Bellière dans la continuité. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Rémi Duprat a réalisé cette émission. Et c'est Sophie Dussault qui vous informe désormais, car il est 20h sur Europe 1. Merci de votre écoute. Portez-vous bien. Bonne soirée et à la semaine prochaine.